18h, 20h, Food de Sport, avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Le destin l'a décidé ainsi. Une nation anglophone, une nation francophone vont se rencontrer ce soir à 21h au stade de la paix à Abidjan. Cette finale de la CAN, la Côte d'Ivoire n'y croyait pas à un moment donné. Finalement, le destin a voulu, par le biais bien sûr de l'équipe du Maroc, que finalement c'est la Côte d'Ivoire qui se trouve aujourd'hui à jouer la finale devant son public, face à sans doute l'une des nations les plus costauds de cette édition, à savoir le Nigeria. Mais également, on l'aura remarqué, durant cette Coupe d'Afrique des Nations, la solidité des arrivants, c'est-à-dire ce qu'on appelle les coachs binationaux, qui ont été auparavant footballeurs professionnels, qui ont suivi des formations et qui ont pris les sélections aujourd'hui africaines. Également, un grand coup de chapeau aussi à cette équipe de la RDC, malgré les massacres du côté de Goma et avec ces gestes symboliques des joueurs congolais, bravo à eux pour montrer leur détresse et celle de leur peuple. Et naturellement, beaucoup de joueurs sont revenus, ils ont repris dans leur club et chacun à sa manière. Et la dernière, porte s'est refermée avec Youssef Attal qui finalement se retrouve en Turquie. C'est parti jusqu'à 20h.
Jusqu'à 20h. Food de Sport. Sur Beurre FM.
En attendant que le studio se remplisse tout naturellement, puisque ça arrive au compte-goutte, mais ça va arriver quand même le plus fidèle des fidèles. Il est vraiment avec moi, c'est notre coach national que je salue, Nasser. Bonsoir.
Bonsoir moi. Hein. Bonsoir à tous les auditrices et auditeurs. Oh, il y a du pain encore sur la planche. Hein. Il y a des choses à traiter encore. Hein.
Oui, il y a des choses que je n'ai pas dites en introduction, mais qui vont arriver au fur et à mesure. Ouais. Et c'est normal.
Beaucoup,
oui, parce qu'on va se poser aujourd'hui la question que je poserai à l'ensemble des auditeurs au 01 53 48 3000 pour tout simplement dire pourquoi, après la tragique élimination au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, le coach national Jamel Belmadi ne s'est toujours pas exprimé. On aimerait bien savoir. C'est quoi ce profond désaccord, mais quand même à minima, il faut trouver une solution, mais silencieux comme ça me dérange un peu. Voilà, coach.
C'est quoi la solution? J'ai pas compris.
Bah, la solution, il parle.
Ah, d'accord. Ah, d'accord,
faut qu'il parle. Il faut qu'il parle.
Non, j'ai compris, la solution, c'est que où il part, où il reste.
Non, j'ai pas dit il part, non, il doit parler quand même.
D'accord.
Bon, ok, d'accord, ça reste du football, on a été éliminé, etc., mais. À minima, c'est à une conférence, il peut être discuté. On va pas rester comme ça, la serre dans l'inconnu. Voilà, c'est tout.
Ah ben non, il va se passer ça, il va pas parler, tu vois. Il parlera peut-être dans quelques temps. Mais pour l'instant, il parlera pas. Hein. Un, parce que sur le plan juridique, c'est compliqué. Ahmed nous en parlera plus.
Oui, c'est pour ça que j'aborderai le sujet quand tu vas sur Allah.
C'est ça. Mais s'il ne parlera pas, il attendra que son affaire se décide ailleurs. Après comme tu l'expliquais tout à l'heure, dans le fond, dans la trahison que les gens peuvent interpréter ça comme ça, c'est compliqué parce que c'est pas stable ce qui s'est passé. Mais c'est pas d'aujourd'hui quoi cette histoire-là. Je sais pas pourquoi aujourd'hui on va se créer des émoires en essayant d'expliquer aux gens. Oui, regardez, j'ai fait. C'est pas ça l'histoire. L'histoire de l'équipe nationale date depuis les 35 matchs, depuis cette défaite-là, depuis la Coupe d'Afrique au Cameroun, depuis l'élimination au Cameroun, depuis. C'est la suite. Mais c'est une suite logique. Un et un, ça fait deux. Le positif amène le positif. Le négatif amène le négatif. C'est-à-dire que si tu as des mauvais résultats, tu vas mettre du temps avant de reconstruire l'équipe. Hein. Beaucoup. Et les traumatismes qui sont encore, et encore, on n'est qu'au début, attends, on n'a pas encore vécu la profondeur des traumatismes. Eh ben, tu fais que ton équipe, elle est bancale, elle a implosé, explosé. Il y a une grande thérapie à faire pour nettoyer ça. La France jusqu'à aujourd'hui, hein, tu te rappelles le match de la Bulgarie là,
oui.
Jusqu'à aujourd'hui, elle est dedans encore. Hein. Elle en parle, hein, ils en parlent. Moi, je vois les entraîneurs nationaux qui discutent. Ils en parlent, c'est resté dans la mémoire plus profonde de tout le monde. Hein, d'avoir pris Kostadinov qui a marqué dans les arrêts de jeu, un truc de fou. Et là, aujourd'hui, on y est encore. même si on a gagné deux
coupes du monde, monde
ouais. Ouais, ouais. Et ben, juillet, ouais. Ben, c'est pareil. Le match du Cameroun, il va pas partir comme ça. En plus, nous, t'as vu, on est des hypersensibles. Pour dire encore plus, on est des grands frustrés. Oui. Donc, je te dis pas comment ça tourne dans la machine à laver et comment c'est présent.
Le côté Zahav ne partira jamais, quoi.
Un, il partira pas parce qu'on aime bien que porter la rumeur, mais deux, il faut traiter le mal. Il faut vraiment traiter le mal parce que c'est pas le match du Cameroun. C'est ce qui s'est passé bien avant. C'est ça qu'il faut traiter, il faut parler. C'est ça l'histoire. C'est la CAN qu'il y a eu au Cameroun. Et peu de temps avant aussi, il y avait des signes. On a vu l'équipe, on en a parlé ici. Je sais pas, il faudra peut-être remettre les podcasts. Et
j'ai les yeux, Nasser, je vais les ressortir.
Tu vas réécouter ce qu'on disait. Bah oui, on a vu venir ça. Et après, à un moment, quand arrive la catastrophe, ah punaise, t'as vu, on a perdu. Oui, mais regarde, depuis 6-7 matchs, alors ce qu'on explique, il y a ce qui se passe. Il y a les choix des joueurs. Il y a les choix qui ont parti, les joueurs qui sont revenus. Delors est parti, il est revenu. Bounchar, il est parti, il est revenu le jour de la coupe. Rien compris. Après, il y a une gestion humaine. Après, on est d'accord, pas d'accord, on a tous nos avis. Hein. Le problème, c'est que le résultat, il est là. Il est là, le résultat. T'as pas été en coup du monde. T'as explosé.
Et est-ce que, Nasser, comme tu l'as dit, si tu fais le parallèle avec ce France-Bulgarie du Parc, cette douleur du Cameroun à Blida, je précise, donc à domicile, à la dernière seconde quasiment du temps additionnel de la prolongation.
Ouais. Je ne sais même pas si on a fait l'engagement contre le Cameroun. Je ne crois pas qu'il y a eu d'engagement. Si, oui ou non?
Après leur but,
ouais.
Très bonne question. Peut-être que l'engagement a été fait, mais à ce moment-là, c'était fini, quoi. Je crois que c'était ce moment-là, c'était vraiment ce qu'on appelle la fin de la fin.
Ouais. Mais on est. Tu sais, les traumatismes, bon, comme dans la vie, hein. Ouais. Ça n'existe pas un traumatisme qui arrive comme ça au moment où tout se passe bien. Il y a plein d'éléments, il y a des lectures d'éléments qui arrivent depuis longtemps, qui viennent se coller sur toi, qui viennent se coller, et à un moment, pouf, c'est la rupture. Bon, football, c'est pareil.
Mais tu m'as expliqué une chose, Nasser, sur cette antenne, ici à Beur FM, depuis longtemps, tu l'as toujours dit, Mohand, nous sommes nous avons ce qu'on appelle ce côté émotionnel chez le joueur maghrébin. Or, ce fameux coach mental, on ne l'a jamais embauché pour travailler sur l'aspect humain. Cette sensibilité, cette fragilité mentale, qu'on le veuille ou non, on l'a, Nasser.
Ben, comme tous les êtres humains, on est tous avec des degrés. Des degrés, après, on achète une carapace, on va dire. On se construit une carapace pour se protéger de ça. De ne pas vivre dans l'émotion et de se retrouver à subir au moins tes émotions intérieures. Donc, on doit avoir une gestion des émotions qui se travaille aujourd'hui sans problème. Mais c'est pas que ça, c'est une culture qu'on a, nous, c'est l'éducation. C'est dans l'ADN. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans notre parcours à nous tous, comme on est. C'est pas le hasard qu'on vit toujours des drames. Il n'y a pas de hasard. Quand j'ai des drames, il y a beaucoup de drames qui se vivent. Et nous, on est en train de les préparer avant qu'ils arrivent. Et quand ils arrivent, t'as vu, encore un autre drame. Oui, mais parce que tu l'as préparé. Après, est-ce qu'on est capable de faire une cassure pour repartir sur autre chose? Oui. Oui, c'est comme le président de la République avait dit, il faut une Algérie nouvelle, mais je comprends mieux sur l'aspect psychologie. C'est-à-dire qu'on casse tout, on recommence, on repart sur des bases saines. C'est ça l'histoire.
Est-ce que c'est ça aussi qui fait que, je mets des points de suspension, parce que tu me l'avais dit ici à l'antenne, que l'Africain arrive à maturité plus tôt parce qu'il est lancé dans la vie active, dans la débrouille plus tôt?
Bien sûr. Ah bah oui, ça c'est clair. Tu as bien vu, on le voit partout. À 14-15 ans, ils assument. Hein. Nous, 23-24.
Ah.
Nous, c'est 23-24. Tu commences à voir des signes de maturité. Et après, ils éclatent, ils deviennent des très bons à 26, 27, 28. Oui. C'est notre fourchette d'âge. Mais bon, les Africains, tu as vu, très jeunes, ils assument. Hein. Tu as vu des filles, tu vois, dans la rue. Hein.
Ah oui.
Alors, on en voit moins maintenant. Mais avant, on voyait des filles de 8-10 ans qui trimballaient les 3-4 heures, qui ont 2-3 ans. Hein.
Ouais.
Ça, on l'a vu. Maintenant, on le voit pas. On le voit de moins en moins.
Ouais.
Mais bon, c'est pas que ça. C'est pas l'explication. C'est après sur le plan culturel. On vient d'où? On a fait quoi? Et qu'est-ce qui fait que ça arrive à nous? Riyad Jamel, il a pris ce pan, à un moment, il l'utilise. Il a dit, vous avez vu l'arbitrage, il y a ça. Mais la question, c'est comment on aurait pu l'éviter? C'est pas comment tu subis, c'est comment on aurait pu éviter tout ça?
Oui, il fallait juste marquer.
Ben oui, il fallait marquer les esprits, il y a des stratégies qui sont en place, mais bon. Mais bon, c'est tout ça qu'on cumule. Après, ça devient tellement lourd à porter que tu as des joueurs, ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas de ça.
Et d'ailleurs, je l'ai remarqué, Nasser, sur cette CAN, un constat. Nous, ça va faire quasiment 20 ans que nous disons ici, sur cette antenne, hormis l'Égypte, aucun pays nord-africain n'est capable de gagner la CAN en Afrique subsaharienne. Et à chaque fois, on nous dit « Oui, mais on a des joueurs. » Mais Nasser, c'est un discours qu'on a entendu ici, à Beur FM, régulièrement, sauf que on avait des arguments pour répondre. Et expliquer, carte sur table, pourquoi les équipes nord-africaines ne peuvent pas gagner en Afrique subsaharienne. De par le climat, de par l'humidité, de par le ce que tu m'as expliqué, c'est ce décalage de température entre un joueur nord-africain qui est dans le championnat, dans les championnats européens en période hivernale, il arrive dans l'Afrique subsaharienne, il passe du coq à l'âne, c'est-à-dire de 10 degrés ou de 8 degrés à 40 degrés, et forcément que l'organisme déjà, il est déphasé.
Oui. Mais c'est pas que ça, Mohamed. C'est pas qu'il s'est passé. Le vrai, c'est qu'ils en veulent pas.
Ah.
C'est surtout ça. Sur le plan mental, quand ils descendent au Cameroun ou Côte d'Ivoire, le joueur maghrébin, il n'aime pas.
Il n'a qu'une envie, c'est de rentrer là.
Bah oui, bah bien sûr. C'est que ça. Ils n'aiment pas. Après, tu as des locaux, toi, les Égyptiens, les Tunisiens, ils ont une façon parce qu'ils ont leurs joueurs qui jouent déjà dans ces contrées-là. Ou les mecs qui viennent d'Europe et qui ont été qui ont été chouchoutés là-bas,
bien sûr.
Ils se retrouvent en bas et comme j'étais là, le taux d'humidité, la chaleur qui est énorme, la pression, le public, il y a tout ce qui fait que t'as pas envie de rester. Et nous, s'ils peuvent rentrer tout de suite, ils rentrent.
Et d'ailleurs, on l'a vu, un premier tour Tunisie-Algérie sorti carrément, premier tour. Et puis le Maroc a suivi en huitième.
Bah oui, ça va de pair. Hein. Ouais. Après, dans les combats, faut. Vu les arbitrages qu'il y a, t'as vu les tacles, les attentats qu'il y a, les combats physiques, tu n'existes pas. T'as pas les joueurs pour.
Et est-ce que là, entre nous, on va continuer avant d'arriver vraiment après à rentrer au cœur de cette CAN. Par exemple, une équipe comme l'Afrique du Sud qui est composée que de joueurs locaux, mais
répond aux exigences de la Coupe d'Afrique.
C'est ça.
Ils sont sur leur terrain. Ils jouent comme à Côte d'Ivoire, le terrain ils ont joué, ils ont dû jouer en Ligue des Champions, ils ont dû jouer là-bas. Ils connaissent très bien.
Ouais. Ça veut dire quand tu vois cette équipe-là, Nasser, elle a fait 3 prolongations.
Ouais, en plus.
Oui, quart, demi et match de classement.
C'est un peu la fête. Et en plus, physiquement, elles étaient bien. Hein.
Oui. Donc, alors que nous, on n'aurait jamais tenu 120 minutes, c'est pas possible.
Ça, c'est des questions. Ça, c'est des belles questions, ça. Ça, c'est des vraies questions de football, ça. Le problème, c'est que les garçons d'Afrique du Sud, ils ont cette faculté, ils ont un flegme. Tu vois, ils ont un flegme, ils ont ce relâchement. Quand ils jouent, on sent un relâchement chez eux, c'est d'une facilité, c'est tellement limpide. Ça part. C'est tellement naturel. Et je pense que c'est naturel ou c'est culturel, je sais pas. Mais nous, t'as vu, on est sur les nerfs, on est très agressif. On a besoin de gérer nos émotions, d'avoir les outils de ça, on les a pas. Et quand tu parles de l'Afrique du Sud, oui, Malnéo, le président c'est
Monsieur Motsepe.
Ouais.
Oui.
Il est président de
la CAF.
Et
je crois que c'est. Est-ce qu'il est président de Sundance ou de Orlando Pirates?
Non, Sundance.
Sundance.
Et quand tu as ces hommes-là qui viennent, et voilà, ils amènent une certaine compétence, on va dire un certain management. En Afrique du Sud, ils ont des grands managers dans les entreprises, et ça se transfère chez les clubs de foot. J'en parlais ce midi avec un ami, en disant que avant tu avais le sport qui donnait à l'entreprise, qui apportait leur management à l'entreprise. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est plutôt les entreprises, qui impactent le milieu sportif.
D'accord.
En leur expliquant, voilà. Qu'est-ce qu'il faut ? La régulation du stress, la gestion des émotions qui fait qu'on a des garçons. Tu regardes l'Afrique du Sud, c'est du costaud.
Ah oui.
Très costaud. C'est pas n'importe quoi. En plus, ils ont un vrai gardien. Dommage qu'en demi-finale.
Oui, en demi-finale, c'était pas ça.
T'as vu ? Ben oui, mais il y a des moments, il faut être là. Les grands joueurs, les grands, c'est à ces moments-là qu'on les voit.
Ouais.
On s'en fout du reste. Si t'es pas là à la finale de la Coupe du Monde, t'es pas là à la finale de la Coupe d'Afrique, tu nous intéresses pas, mon quoi. Mais c'est cette gestion-là qu'il faut inculquer à nos enfants, à la gestion des émotions, de leur vie, de ce qu'ils vivent, et comment ils régulent le stress, comment ils apprennent très jeunes à réguler le stress pour pouvoir être de plus en plus libre et libre de ses mouvements et dans sa tête. Si t'as pas ça, comment veux-tu amener des garçons comme ça dans la compétition de haut niveau quand t'as vécu les années de barbares qu'on a vécu chez nous?
Ah oui,
les garçons,
il y a eu des traumatismes.
Mais terrible. Ouais. Ça, j'ai dit, moi, j'aimerais bien voir un sociologue algérien qui m'explique la génération qui arrive, là, ou du moins qui est passée, ce qu'ils ont vécu, les dégâts qu'ils ont vécu sur le plan psychique. Je parle sur la psycho. Hein. Psychique, c'est l'état de moi, c'est encore plus profond que lui. Comment on fait pour. Expliquez-moi, c'est qui ces individus-là? C'est quoi ces garçons qui ont vu des massacres et tout?
Ce qu'ils ont vu le restera marqué à vie. Hein.
C'est ça. C'est pour ça que je dis, quand tu m'as dit pourquoi 2000 on a fait une esclandre, nous, là-bas en Algérie, c'est parce qu'on sortait des années de terrorisme, qu'on a ramené une Coupe d'Afrique, qu'on a fait un quart de finale, on a rehaussé le drapeau et le nef de chez nous. Mmh. Et ça a redressé les gens. Et nous, on est quand même le départ de ce qui se passe après.
Hein, c'est exactement ça, ce que j'allais dire là, Serge. C'est que c'est parti de vous,
bien sûr,
pour
bien sûr.
Arriver au deux calibres de Coupe du Monde, etc. Et tout, cette canne. Il y a eu tout un travail en profondeur.
Complètement.
Et à ce moment-là, il y a eu cette envie des binationaux de rejoindre la sélection.
Complètement.
C'est un travail que tu as fait avec Fesaïd Hamemi Rabbi-Rahmo. Donc, il y a eu toute une génération d'entraîneurs issus de l'immigration qui ont contribué à ça. Au fur et à mesure, les joueurs aussi venaient.
Bien sûr, c'est venu. C'est venu de ça. Et bon, après, on ne va pas dire que, que c'est l'Algérie. L'Algérie, elle a quand même enfanté les deux plus grands meilleurs joueurs. On ne peut pas dire les trois. Hein. On parle de Zidane et Benzema. C'est quand même des Algériens qui ont fait ça. Hein. Au cas où les gens auraient oublié. Et il ne faut pas oublier qu'il y a ça et qui fait que, voilà, on n'est pas n'importe qui. L'Algériste laisse personne insensible. Dès que tu dis le mot Algérie, ça touche directement là où c'est qu'on a eu faux pas.
Mais c'est incroyable.
Je le connais, c'est toi.
Et en plus, quand par hasard, en plus, on fait partie de la cible. Je suis désolé de le dire. Pourquoi?
Est-ce que dans une journée, tu ne cites pas une fois l'Algérie dans une journée?
Non, c'est impossible.
T'as vu?
Non, j'ai essayé, mais.
Impossible.
Non, c'est ça. C'est plus fort que moi.
Quand t'as pris la piqûre algérienne, t'es mort. Hein. Là, tu peux aller où tu veux, tu vas revenir. On va revenir là-bas.
Coach, ce qu'on fait, on va marquer une première pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce foot de sport. Alors, je vous rappelle que là, on va arriver, on aura pardon l'arrivée de notre ami Hamed, hein, le juriste, qui va nous expliquer tout cela. Avec notamment cette affaire de silence d'un entraîneur. Et puis, on aimerait bien savoir s'il est dans son bon droit.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Sur Beurre FM.
Allez, retour sur le plateau de Foot de Sport. On continue jusqu'à 20h. Alors, le deuxième sujet, forcément, il a trait au mercato. Bien entendu, le temps que coach arrive, il arrive avec son petit café, peut-être pas encore. Le deuxième, pourquoi? Parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Enfin, les problèmes sont terminés. Il est parti. Il a rejoint la Turquie. Je vais parler de Youssef Atal. Ça s'est passé puisque le mercato turc était valable jusqu'à vendredi, Nasser. Et du coup.
Mais comment ça se fait qu'il n'a pas trouvé de club? J'ai pas compris là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas compris.
Moi. En fait, c'est parce que tous les mercatos étaient. Était fermé au
mais avant d'être fermé, c'était ouvert.
Eh ben écoute, c'est parce que en tout cas à Nice, ce qui s'est passé, c'est qu'à Nice, personne n'en voulait. Et visiblement, on sait très bien que c'est un garçon qui est très sensible, et donc on a préféré lui trouver ce qu'on appelle une porte de sortie ailleurs, plutôt que de le laisser en Ligue 1. Donc, je pense qu'en Ligue 1, il aurait vraiment subi quelque chose, quoi.
Je crois pas, moi. Ouais. Sérieusement, je crois pas. Je ne crois pas qu'un garçon de ces qualités-là ne trouve pas de club en Europe.
Moi, je reste persuadé que le coach de Nice à mon avis, a reçu des instructions pour que Youssef ne joue pas. Parce que lui, donc quand ils ont recruté un joueur, poste pour poste, c'est pour pallier le départ de Youssef Attal.
Oui, mais après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je veux dire, c'est leur problème. Nice, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur souhait. Ouais. Moi, je dis, la qualité du joueur d'Attal ne mérite pas d'arriver dans un club lambda en Turquie. C'est un truc de fou, ça. Il s'est passé des choses. Ouais. Il y a eu des refus. Moi, je suis persuadé, il y a des clubs qui ont voulu le prendre, ouais, et ça a été refusé par Nice. Et c'est eux qui choisissent la destination. Et ils lui ont trouvé un club pour aller dormir là-bas en Turquie, dans un club de fou dingue.
9e du championnat turc.
Ouais,
ils font une bonne affaire. En fait, le seul truc, c'est qu'ils se retrouvent avec Mario Balotelli.
Là-bas.
Oui, dans le même club.
Il va grand joueur, parce que c'est qu'un grand joueur.
Ouais. Et du coup, Youssef va passer 6 mois là-bas en Turquie. Enfin, là, jusqu'en fin de saison. Puis après, En fait, c'était vraiment. C'est une espèce de transfert qui est pour 6 mois. Hein. C'est pas vraiment pour signer un contrat de 2-3 ans, etc.
Le fond de la pensée, c'est qu'à Anguille sous Roche, tous les jours, ça, il n'y a aucun souci qu'un garçon de la qualité de petit Attal se retrouve comme ça dans un club lambda en Turquie. J'y crois pas. Bah, on peut me dire ce qu'on veut à moi, vu la qualité qu'il a. Je pense que Nice a refusé beaucoup d'offres de lui. Beaucoup de clubs qui ont été intéressés par lui, comme il était à une période, il ne peut pas se désengager parce que le garçon a tenu des propos, on va mettre des parenthèses, et qu'aujourd'hui il se retrouve sanctionné en trouvant un petit club en Turquie, en sachant que les délais de transfert étaient terminés, donc on ne pouvait plus vous trouver un club. Mais mon frère, ça fait 6 mois qu'il est déjà suspendu là. Son manager, il fait quoi là?
Bah c'est ça. Bonne question.
Ah bah oui, bonne question.
Où est le manager de Youssef Attal? Franchement, aujourd'hui, je le dis aujourd'hui à l'antenne, j'aimerais bien entendre le manager de Youssef Attal s'expliquer pourquoi avoir traîné son transfert. C'est la bonne question.
Bah oui,
tout le monde joue à cache-cache. Dans cette histoire, tout le monde joue à cache-cache, Nasser. Il y a un souci.
Il y a un grand souci. C'est même pire que ça. Mais je parle de la qualité du joueur.
Oui, oui, on est d'accord.
C'est un très très bon joueur, très bon latéral. C'est un joueur du football moderne d'aujourd'hui.
Il n'a que 27 ans, ça va.
En plus.
Ouais,
il a 27. Bon, il a un cumul de blessures énormes, donc c'est ce qui freine un peu. Mais bon, on voit que depuis quelques temps, il se gère beaucoup mieux.
Oui, c'est vrai.
Il termine les matchs, il est moins blessé. Donc ça veut dire qu'il y a un avenir pour lui. Mais maintenant, moi, je reste persuadé quand je l'ai lu. Hein, j'ai lu cet article quand il me disait qu'il l'avait trouvé. Mais c'est pour dire que tout est dans une combine, là, quelque chose qui n'est pas clair. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais bon, on va le regarder. Ça, c'est quoi le nom du club, là? Sport, je suis sûr.
Oui, il doit y avoir le mot Adana, un truc comme ça.
Bon.
Oui.
Mais c'est pas normal, moi. C'est pas un truc de fou, ça. Après, les garçons, Attal, ce qu'il fait à Nice, déjà.
Oui.
Ils se retrouvent à aller signer en... Ça, c'est l'usine, ça.
Oui, c'est ça.
C'est la mine.
Oui.
Il est parti à la mine.
Ouais.
Même si la Turquie est magnifique, hein, de toute
façon. Oui.
Le passionné de football, si encore ça aurait été Fenerbahçe, Galatasaray, j'aurais
c'est compris. Ça, oui, on est d'accord.
Mais là, on va pas en dire plus.
Donc, l'essentiel, c'est qu'il va rejouer au foot.
Oui.
Ouais.
On va pas se contenter de ça.
Oui, non, on est d'accord, parce que, Nassa, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que le drame aujourd'hui pour...
T'as vu, aujourd'hui, on dit qu'il a loupé un mois de compétition, on dit, il n'aura jamais dû jouer. Comment ça, un mois de compétition, c'est rien, comme une blessure. Oui. Mais il n'a pas été blessé, puisqu'il s'entraînait tous les jours.
Oui, non,
les soirées. Tu perds ton football comme ça du jour au lendemain. Si, tu perds un peu du rythme, mais bon, un match, tu rattrapes. Même si je pense qu'en Afrique, c'est une vraie question de savoir si Attal, ça vaut le coup de le faire jouer, vu les monstres qu'il a en face de lui. Ah, faut les choper, hein.
Ils vont très très vite.
Ben, en plus.
J'ai vu cette année dans la CAN des joueurs qui vont très très vite.
Ah, oui, oui.
Ils ont des courses Nasser phénoménales.
Ah oui, la vitesse, c'est leur. Ouais. C'est l'arme numéro 1.
Comme on dit chez nous, Irudiwen. Bon, allez, on va aller du côté du standard. Tiens. On va essayer de commencer les discussions avec nos chers auditeurs. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir, Mohamed.
Oui, alors, si tu peux éteindre ton.
Ah, j'ai oublié.
Bah oui, parce que je l'entends dans l'oreille là.
Oui.
Voilà.
Désolé.
C'est mieux comme ça.
Bonjour, Mohamed. Bonsoir, coach.
Oui, alors c'est.
Pardon ?
La voix.
C'est Karim de Tremblay.
Ah, c'est bien. Oui, parce que j'ai confondu avec un autre.
D'accord.
Oui, ok, d'accord. Karim de Tremblay. Vas-y, Karim.
Alors, j'ai écouté la réflexion là sur Youssef Attal.
Ouais.
Finalement, c'est pas étonnant parce que enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais le joueur maghrébin en général, malgré tous les talents qu'il a, tout confondu, oui. Il est mal, souvent très mal représenté par les managers, par les comment on les appelle, j'ai oublié le terme.
Bah, oui, bah, les managers, c'est qui gèrent leur carrière, oui.
Oui, voilà. Enfin, oui, je crois qu'il y avait un autre terme, mais bon. Bref.
Oui, manager, voilà,
en général, ils sont très très mal. Ils sont sous-cotés. Souvent très sous-cotés. Et quand on voit, par exemple, Riyad Mahrez, la caresse qu'il a fait, c'était pas gagné au début. Et quand on voit le résultat à la fin, on se dit, mais il y a quand même eu. Bon, c'est pas le premier exemple. Et l'histoire de Youssef Attal, elle est tout simplement politique.
Oui, bien sûr, ça, tout le monde le sait. Oui,
voilà,
oui,
ouais. Je veux dire, faut pas se cacher, elle est politique, on veut plus de lui en France, et on a fait tarder exprès pour pouvoir, pour aucun club français ne le prenne, c'est tout. Oui. Et voilà, c'est la vérité. Malheureusement, en France, on est dans un climat aujourd'hui où le maghrébin en général, enfin en particulier plutôt, le musulman en général, le maghrébin en particulier, est très mal vu, et dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il donne son avis sur quelque chose, on essaye de lui fermer... mettre la paix, c'est tout. Ouais. On a vu ça avec Benzema. Enfin, l'affaire, elle est. Enfin, je vais pas vous la. On la connaît tous. Un des meilleurs joueurs au monde, le numéro 9, le meilleur numéro 9 de ces années.
On peut le dire.
Il a, ouais. Voilà, il a été mis au placard et pendant 6 ans, quand même, c'est pas rien.
Ouais.
Alors, pourquoi ouais. On se demande toujours pourquoi.
Ben, c'est ce que disait tout à l'heure, coach, à chaque fois. C'est plus fort que tout, ça tombe, c'est toujours sur les Algériens. Voilà.
Oui, et j'allais dire oui.
Oui.
Mais je crois que, comment il s'appelle, Galtier, Christophe Galtier. Enfin.
Bah, il a été blanchi. Il a été blanchi
oui,
de tout.
Il a été blanchi, mais bon. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu souvent, et surtout dans ce milieu-là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les Algériens, c'est les pires.
Oui, ouais, voilà. Les Algériens, c'est les pires. Ouais. Pourquoi?
On peut en rire, mais malheureusement, c'est la. Enfin, c'est. Moi, je suis dégoûté de ces réflexions-là. Enfin, c'est écœurant.
De toute façon, maintenant, ce qu'on peut souhaiter à Youssef, déjà, bon, il va finir la saison avec son club, et puis que l'année prochaine, il va bouger ailleurs. Hein.
Oui, ben ça, on va dire ça. Peut-être un mal pour un bien.
Oui, oui. Et parce que sinon, en France, il n'aurait pas joué.
Oui, il n'aurait plus joué, de toute façon. Mais moi, j'espère, en tout cas... Enfin, souvent, hein, la roue tourne et le retour du bâton, il est souvent rapide. Nice, il va avoir du mal. Je pense qu'il va avoir du mal pour la fin du championnat. Et voilà, donc ils vont peut-être le regretter de s'être couché comme ça. Et,
oui, parce et que, voilà, c'est, pas, parce que c'est pas venu de l'entraîneur, il faut le savoir. Lui, dès le départ, elle a dit, moi, après la sanction, il réintègre le groupe. Hein. Non, c'est pas venu, c'est pas venu de l'entraîneur. Hein.
Pas du tout. Il va pas se passer d'un joueur comme Youssef Attal, quand il y a une possibilité. C'est un des meilleurs arrière-droits de ces dernières années en championnat de France.
Exactement.
Voilà, c'est un talent pur. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est purement politique. Et j'ai une petite question qui n'a rien à voir.
Oui.
Bon, moi, je commence à être un ancien.
Un ancien.
Poliment, un ancien, on va dire.
Oui.
Vous avez peut-être la réponse, parce que j'en discute avec des amis, etc.
Oui.
L'Akhdar Belloumi.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'il n'est jamais sorti d'Algérie? Alors, j'ai plusieurs versions, et moi, j'aimerais bien avoir la vôtre. C'est une question, moi, qui m'a... Parce que moi, c'est le héros de ma jeunesse. Et j'aimerais bien savoir pourquoi il n'est jamais sorti d'Algérie pour aller, comme on le sait, il y a la Juventus qui était derrière lui. Il y a le PSG à l'époque qui était derrière lui. Et on ne sait pas pourquoi il n'est jamais sorti du pays, quoi.
Ouais. Alors, à l'époque, moi, je peux répondre sur une question un peu plus, je dirais, juridique. Il faut savoir qu'à l'époque, dans tous les clubs européens, tu avais le droit à 2 étrangers par club, avant le fameux arrêt Bosman. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, ceux qui ont fait, je dirais quasiment la guerre aux institutions, aux fédérations par exemple, c'était des garçons comme Madjer, comme Assad, qui ont pu quitter l'Algérie, puisque Assad s'est retrouvé, je me rappelle, à l'époque à Mulhouse, et puis Madjer au Racing de Matra, hein, c'était ça à l'époque. Ouais. Alors que Belloumi, je crois qu'on a dû lui donner un pont d'or pour qu'il ne quitte pas l'Algérie. Et c'est sûr que après, il y a eu des regrets. Parce que il aurait pu lui aussi faire une grande carrière en Europe,
ah oui,
mais bon. Après, chacun a une version. Hein. Moi, je sais que moi j'essaie d'utiliser ce qu'on appelle la version purement à l'époque juridique où tu n'as pas le droit à plus de deux joueurs extra-communautaires dans ton club.
Oui, il y a ça. Il y a surtout le fait qu'il fallait avoir 28 ans pour partir.
Ah oui, merci coach, j'ai oublié l'âge.
Ouais, bah oui. Et la deuxième, ce qui est dit à cette période-là, c'est que il était à Mascara là-bas et oui. il s'est marié avec la fille du boss de la ville. qui lui aurait tout donné. Et en plus, tout simplement, ce que tu dis, c'est simple, hein, c'est qu'il n'a pas voulu y aller. Hein. Oui. Moi, je pense, sincèrement, de toute façon, quand les gens à 28 ans ils pouvaient partir, ils sont tous partis. Hassan est parti, Madjer est parti, et je crois qu'il a... Il n'en voulait pas plus que ça. Hein.
Ouais.
Moi, je pense ça, parce que s'il avait vraiment envie de partir, hein, comme Hassan, moi j'ai eu Hassan juste avec lui plusieurs fois, il m'a raconté, il voulait partir. Il a été voir même Chadli Ben Jadid, il a été le voir pour avoir l'autorisation, il lui signe, il a été jusqu'à la présidence pour qu'il lui donne la signature. Il a pas lâché. Alors, non, ben, oui, ouais, il y a des versions qui tournent autour de ça, mais il y a une des versions qui dit, ouais, voilà, c'était le fait qu'il était, il a épousé.
Oui, on m'a parlé de cette affaire à la
nationale. Oui. Qui a fait que, il est resté en Algérie. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que c'était un sacré jour. Hein.
Ouais.
On aurait pu le voir à ce niveau-là. Hein.
Et d'ailleurs, c'est pour ça, coach, que là, aujourd'hui, bah, on va dire 40 ans après, comme tous les anciens, dès que son gamin a voulu partir, il lui a dit, va mon fils, là, il est au Portugal, le petit Bachir. Ouais. Mais pour dire que, oui, si c'était à refaire, bah, bien sûr.
Ouais. Le père, c'est pas le fils. Ouais.
Hein. Ça n'a rien à voir. Oui, comme toujours, à l'époque, on disait, oui, c'est l'histoire de Johan Cruyff avec son fils Jordi. Tout le monde disait le fils de Cruyff. Mais c'était le fils. Voilà, on est d'accord, coach.
Ouais.
Voilà, Karim.
Parfait. Merci pour cet éclaircissement.
Merci. Bonne soirée.
Mais t'as pas mal de versions. T'as plein de versions. Fred,
ouais.
Le jour qu'on le voit à l'Ardal, c'est bon. C'est une bonne question que tu me poses, parce que le jour que je vais le rencontrer, sûrement je vais le rencontrer,
ouais.
Je lui demanderai la question, ouais. La version officielle.
Et pourtant, j'ai déjà rencontré ses abonnés.
Bien sûr.
Il est déjà venu ici chez nous en plus. Hein. Mais c'est vrai, j'ai jamais pensé à cette question. Ouais.
Parce que c'est même le. J'allais dire, c'est mon héros. Mais oui. C'est le héros de Zidane, hein, pour le savoir. Hein.
Ouais.
Parce qu'il l'a dit après Zidane, il a dit Bellomi. Et pour moi, je regardais que Bellomi, quoi.
Ouais.
Et quand on voit. Il y a encore des vieilles images qui passent sur. Sur YouTube pour les
jeunes. C'est bien ça, les vieilles images. Hein.
Ah, mais quand on voit la passe aveugle et tout, y en a, ils la connaissent que par Ronaldinho, mais Bellomi, il la faisait déjà 20 ans avant. Hein.
Mmh. Oh, ouais, il y en a beaucoup. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont fait bien avant.
Ouais. Voilà, Karim, merci. Merci, bonne soirée.
Bonne continuation, merci.
Merci.
Bientôt, Inch'Allah.
Inch'Allah, ouais. Ok, allez, on fait une seconde pause et on se retrouve dans un instant.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Fou de sport sur Beurre FM.
Avant de reprendre vos appels du côté du standard, juste une petite question, coach. Ton favori pour ce soir?
Bonne question. Côte d'Ivoire, chez elle, finale de Coupe d'Afrique. Il y a combien de public là-bas? 50, 60 000
À peu près, ouais.
60 000 Ivoiriens qui attendent ça.
Ouais.
J'espère que le Nigeria va être costaud. Hein. Puis ça va être une déferlante. Hein.
Ouais. Mais c'est une équipe costaud déjà, le Nigeria.
Hein,
c'est costaud, le Nigeria.
Oui, c'est costaud, mais bon. T'es dans une finale.
Ouais.
T'as vu, comme dit l'autre, on la joue pas, la finale, faut la gagner.
Oui.
Il y a tout ce qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire gagne. Maintenant, le Nigeria, s'il est capable de faire le coup, oui. Il peut faire le coup. Il peut le faire. Il a les moyens de faire le coup, mais ça va être compliqué. Hein. Ouais. Franchement, ça va être très, très compliqué. Et ils sont tout seuls, là.
Ah oui.
Ils sont 11. Hein.
Ouais.
En face, il y a 100 000 personnes en face.
Ouais.
C'est ça en Afrique, en général, quand tu joues à domicile.
Ouais.
C'est compliqué. C'est pas comme aujourd'hui, on a tellement protégé les clubs quand ils venaient à l'extérieur qu'aujourd'hui, tu peux gagner à l'extérieur. Pas de souci.
C'est vrai. Je l'ai remarqué, ouais.
Mais en Afrique,
Il n'y a pas d'extérieur.
Non, là, il n'y a pas d'extérieur. Là, c'est pas, c'est, ça va être un drame humain. Si le Nigeria gagne, ça va être l'histoire du Brésil qui a perdu contre eux.
L'Allemagne ?
Non. Non, en...
Tu me parles de...
54.
Ah, non, 50, en 50.
50 ?
Oui, c'était contre l'Uruguay.
L'Uruguay, ouais. Voilà.
Ça leur est resté en travers la gorge à vie.
Ben oui. T'as le deuil national pendant une semaine. Tu fermes le pays une semaine.
Ouais,
c'est le Côte d'Ivoire, elle est fermée, elle va être fermée pendant un mois, là.
Ouais, le regretté Tchafino qui a marqué le but vainqueur de l'Uruguay contre le Brésil. Ouais, absolument. Allez, on y va du côté du Standard. Allez, je reprends vos appels, c'est dans l'ordre, bien sûr, hein, d'arriver. On y va. Bonsoir, bienvenue.
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, Morad. Tiens, comment vas-tu?
Comment allez-vous?
Ça va, et toi?
Ça va. J'espère que si à moi, hein, tu vas pas me couper le son. Hein.
Non, c'est bon, parce que là, je me suis mis en mode casque. Et puis, tu as de la chance d'avoir appelé au début. Hein, parce que quand tu appelles à la fin, des fois, c'est pas évident.
Non, la dernière fois, tu m'avais coupé le son à deux reprises. Bon,
voilà.
Tu m'avais coupé le son. Ouais. Bon.
Tu sais que des fois, une simple micro-coupure avec le système numérique, tu peux avoir un bug et tu peux parler dans le vide.
D'accord.
Donc, oui, c'est joli. Hein.
Je voudrais revenir à l'Omé, l'auditeur précédent qui a posé une question.
Oui.
Tout d'abord, il a joué en Doom en 3e division avec Roland Fourbis.
C'est vrai.
Et il a eu. Où ça a été une catastrophe.
Ouais.
Il a joué un petit peu au Kappa.
C'est vrai.
Après la Coupe du Monde de 1986, il a failli jouer à Murcie, un petit club espagnol.
Ouais.
Et on ne sait pas pourquoi ça ne s'est pas fait.
Est-ce que c'est pas un manque d'ambition quand même?
Non, je vais te dire pourquoi. Moi, je pense. Hein. Lomé, pour moi, c'est une personne qui a été mise sur un piédestal par les médias algériens.
Ouais.
Faut savoir qu'il y a un nombre impressionnant de reportages qui lui a été consacré à l'époque. Lomé, c'est fait qu'à force de répéter une chose, comme disait le nazi Goebbels, à force de répéter quelque chose 50 fois, à la fin, on y croit. Et lui, Lomé, on a voulu nous faire croire que c'était un génie.
Ouais.
Il y en a même qui l'ont comparé à Maradona.
Maintenant,
je pose une question.
Ah, tu comprends pas Maradona.
Chaben Horskan, il y a 3 semaines, il a fait une interview, il disait que Lomé, c'est de la trempe des Maradona et des Pelé. Bon. Quand j'entends dire que Zidane, Lomé, c'était son idole.
Non, c'est Francescoli.
C'était Enzo
Francescoli, son idole.
Comment Lomé, en 82, sachant que Zidane avait 10 ans, la télévision... Est-ce que vous voyez des matchs d'équipe nationale à la télévision française? L'équipe de... Jamais.
Ah non, dans les années 80, ça n'existait pas.
Comment? Parce que c'est Lomé qui avait déclaré que Zidane avait des posters de lui dans sa chambre.
Ah.
Gros mensonge. Moi, le premier, j'avais 13 ans, en 1982, les premiers posters que j'ai réussi à voir, c'est en 1984 dans un magazine qui s'appelait Foot Sud de Magazine.
Ah, je me souviens de ce magazine. Ah bah oui, comment?
Ça parlait du foot africain.
Oui,
ça parlait...
c'est vrai, c'est
Donc,
vrai.
Donc quand j'entends que Zid est Lomé, je suis désolé. Jamel Slimani, il était plus fort que lui.
Ah oui, Atlet
Jamel
oui.
Jamel aurait dû jouer la Coupe du Monde 1982 à sa place.
Bah, la grande frustration, c'est l'histoire de Tlemcen, hein. Tout le monde le sait. Hein.
Tlemcen, que je rappelle, a été élu meilleur 10 de France en 1984.
Et je me souviens très bien. Ouais.
Donc, quand on dit Lomé, c'était enfin, moi, personnellement, c'est vrai qu'il a fait une belle Coupe d'Afrique 1980.
Une belle Coupe d'Afrique
1984. Mais il a disputé 6 Coupes d'Afrique et l'Algérie n'a jamais remporté de titre.
Mais il faut savoir qu'à l'époque, et je ne sais pas si tu te rappelles, Amourad, quand il jouait avec l'équipe de Mascara, donc il faisait les matchs de Coupe d'Afrique, et l'histoire du match en Libye...
Il lui a cassé la jambe juste après le fameux match
exactement.
De Algérie-Juventus au mois de février 1985.
Ouais.
C'est vrai que Lomé, il a marqué l'histoire.
Ouais.
Sur un seul match où il a marqué les esprits, c'est ce fameux match face à la Juventus de Platini et de Zbigniew Boniek.
Ouais.
Une victoire 3-2 au 5 juillet. Après ça, il est parti jouer un match de Coupe d'Afrique avec le Galli Mascara face à l'Etihad de Tripoli. où le défenseur lui casse une jambe.
Carrément, là, ouais, c'était...
Il casse la jambe. Ouais. Ensuite, comme c'était un chouchou de l'État, qu'on lui a payé tous les frais, comme on dirait, il s'est venu se soigner à Paris, rappelez-vous. Mmh. Ensuite, il est revenu en Algérie, il s'est reblessé une nouvelle fois, mais Bloumé, c'est pas de la... Pour moi, c'est pas le génie dont... Je vais même vous faire une confidence. Le 22 juin 2013, rappelle-toi... on s'est vu à Tremblay en France.
Oui.
Le fameux match Tremblay contre les anciens de 82, 84, 86.
Hein. Oui, 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 je m'en souviens. Je m'en souviens très bien.
Il y,
oui.
Il y avait toi, il y avait Farid.
Oui.
Et j'ai parlé avec
qu'on salue. Oui.
Et j'ai parlé avec un joueur qui avait joué avec Bloumé en équipe nationale. Et je préfère taire son nom.
Oui.
Et qui m'a dit, Bloumé, on en a fait des tas et des tas pour pas grand chose. Et c'est un joueur qui a joué avec Michel Platini à Nancy, et qui a joué donc en équipe nationale d'Algérie la Coupe du Monde 1986, même s'il n'a pas joué une seule seconde.
Ouais, oh, je vois de qui tu veux parler.
Bloumé, ce qui me fait rire, moi, c'est que les gens disent c'est un génie, mais combien de matchs ont-ils vu de Bloumé? C'est ça la question.
Ah bah c'est vrai que quand on parle d'un génie, c'est quand tu joues beaucoup de matchs en sélection où tu apparais. Mais il fut même une époque où le Khadar a été banni de la sélection. Est-ce que c'était pas pendant la CAN de 90
Oui, la CAN 90.
Oui, voilà, il s'est passé quelque chose en 90, oui.
J'ai parlé, moi je te dis franchement, en 2015, toujours à Tremblay, l'équipe nationale était revenue jouer un match toujours à Tremblay face à Tremblay.
Ouais.
Bloumé m'a dit que c'est moi dire qui avait refusé que Bloumé vient jouer de la Coupe d'Afrique à Alger en 1990.
D'accord.
Mais moi j'ai une autre opinion.
Ouais.
C'est qu'Abdelhamid Karmali a vu qu'il était un joueur en fin de carrière. Est-ce que vous vous souvenez de son match du match face à lui? Face à l'Égypte en 89.
Vous vous souvenez ce match
aller-retour.
Il a frappé le mec, il a crevé l'œil.
Ah oui.
Le flic.
Oui. Oui.
Attends, un autre, c'est dans le micro, s'il te plaît.
Ouais, c'est l'histoire du. Au Caire où Bloumé aurait frappé un flic, il lui aurait crevé un œil, c'est ça?
Et après que Sahar, sauf que c'était pas le Bloumé, il y en a qui disent que c'est le gardien de but remplaçant.
Oui.
Mais il avait été ensuite, on a dit que c'était l'Akhdar Bloumé, mais surtout sur le plan technique, ce soit le match aller à Constantine où on fait 0-0 et le match retour au Caire où on perd 1-0, Bloumé, ce n'est que l'ombre de lui-même. Et Abdelhamid Karmali a décidé qu'il n'était pas au niveau et c'est pour ça qu'il ne l'a pas pris. Mais bien sûr, on dit que c'est Rabah Madiaf qui
ne
voulait pas de lui, quoi.
Non, c'est un choix du sélectionneur, je me souviens. Oui.
C'est
Karmalier Bergmo qui...
Oui. Voilà, pour dire que Bloumé, moi, personnellement, je ne parle pas dans le vide, j'ai réussi à procurer des dizaines de cassettes de l'équipe algérique des années 80, et c'est là que Bloumé, je l'ai vu jouer, donc j'ai pas été impressionné. En fait, j'ai dit, Bloumé, pourquoi il n'est pas parti à l'étranger, parce que peut-être que... voilà. Mais encore une fois, il est parti jouer à Ondoum en 3e division, où ça a été catastrophique, d'après ce que j'ai entendu. Et il a joué un petit peu au Qatar.
Ouais. Ok, Mourad.
Et attendez, juste un truc.
Rapidement, il y a beaucoup de gens au standard.
Non, juste pour dire, si la Côte d'Ivoire gagne cette Coupe d'Afrique, c'est une honte pour le football.
Aïra.
quand tu prends 4-0.
Oui, à la Guinée équatoriale.
Comment tu fais pour arriver en finale avec un jeu aussi pauvre? Si encore ils avaient fait comme le Portugal en 2016, qui avait fini dans les 4e 3e avec 3 points, et qui est parti au bout, avec ce fameux but de Eider à la...
Oui, je me souviens,
encore, le Portugal, ils n'ont pas pris de raclée. Mais cette Côte d'Ivoire, si elle gagne cette CAN, franchement, Inch'Allah que le Nigeria l'emporte. Voilà, on est dans ça, hein. Parce que cette Côte d'Ivoire, c'est catastrophique. Hier, on a vu un match fort, la 3e place, une véritable purge.
Ouais.
Moi, c'est cool. Les Congolais, ils ont raté des buts à 3 mecs qui tiraient au-dessus. Mais franchement, hier, on n'a pas assisté à du football.
Ouais.
Et si cette Côte d'Ivoire va au bout, je ne comprends rien au football. Excusez-moi de vous le dire, c'est une insulte au football.
C'est vrai que jusqu'à maintenant, là, on a quand même vécu une belle Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Ouais. C'est... Là, jusqu'à maintenant, on a quand même vécu une belle Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être oui, ces derniers matchs, oui, c'est un peu...
Attention, moi je pense. Hein.
Ouais.
Je pense qu'il y a un pays africain, comme vous l'avez dit, enfin vous aviez dit qu'ici quelques années, le football africain devra un jour remporter une Coupe du Monde. Mmh. Moi je pense qu'on est très loin, parce que par rapport à cette Coupe d'Afrique, il faut juste noter que 85% des joueurs évoluent dans des petites ligues.
Ouais.
En D2, en National, en 4e division...
Non, peut-être pas le Nigeria. Non, le Nigeria,
c'est... Même le Nigeria, je ne crois pas qu'ils jouent tous dans... À part, il s'appelle Osimhen qui joue à Naples, je ne crois pas qu'ils jouent tous dans des grands clubs européens.
Bon, enfin, déjà, quand tu joues dans un club européen de première division, première ligue, etc., c'est quand même une référence. Aujourd'hui, tu vas jouer en Angleterre, en première ligue, même si le club est le 15e, c'est le championnat anglais, ça va très vite, etc.
Oui,
ou la Liga, c'est ça, il faut voir, Mourad. Il ne faut pas que... C'est pas que les... Oui, oui.
Je sais de quoi je te parle.
Oui, oui.
Ils jouent au Danemark, ils jouent en Lituanie, ils jouent à Chypre, ils jouent... C'est quand même pas des championnats de...
Ouais. Non, mais après, c'est des pays, c'est des pays qui exportent tellement de footballeurs par le biais de filières d'immigration. Moi, là, tu vois, ça, c'est un autre sujet, mais je peux te certifier, c'est que il y a tellement de joueurs, par exemple, nigérians, camerounais, ivoiriens, congolais. Alors, regarde, tu prends juste le Congo. Le Congo, je crois que c'est le pays qui fournit le plus de joueurs ici en France. Aujourd'hui, il suffit juste de prendre la prononciation des noms des joueurs congolais qui évoluent dans le championnat français, qui sont en équipe de France, mais qui sont passés par l'équipe de France, et tu verras que si tu fais le compte, eh ben, le Congo ça produit beaucoup, effectivement. Après, comme tu le dis, l'Europe, ils sont intelligents, ils prennent la crème des crèmes pour leur sélection, on n'est pas fou.
D'accord, juste une dernière chose, juste un mot.
Ouais.
Est-ce que tu as vu la déclaration du journaliste d'investigation, Molina?
Écoute, j'ai repéré l'article.
Grave, hein.
Je n'ai pas eu le temps de l'écouter. Et je l'ai repéré.
Non, en fait, ce qu'il dit, il dit, après lui, que la veille du match face à la Mauritanie, Walid Sadi, le président de la FAF, serait parti voir des joueurs algériens et leur a dit, quoi qu'il advienne demain, Belmadi va sauter. Et le malheur, c'est que certains joueurs l'ont répété à Jamel Belmadi.
Oui.
Et après, ça aurait fait une histoire bizarre. Mm. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est fort possible. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 mois, il y a un ancien ministre des Sports algériens qui était passé sur une chaîne algérienne.
Mm.
Et il avait dit que le mafieux Rarouara lui avait dit de faire sauter Jamel Belmadi. Et sachant que Walid Sadi, c'est le
oui, on le sait, oui. C'est
de
Mohamed Rawarawa avant, on est d'accord.
Donc on peut se poser des questions.
Ouais.
C'est grave, hein, si c'est vrai, si ce truc est avéré.
Ouais.
Franchement, là, Jamel Belmadi, je comprends pourquoi aujourd'hui il ne veut pas parler.
Ouais.
Et il se passe des choses vraiment louches. Encore une fois, ça c'est avéré. Mais sachant que Molina, en général, il ne dit pas que des conneries.
Ouais. Ouais.
C'est un journaliste très reconnu.
On va fouiller le dossier. Merci, Mourad.
Merci,
le mec. Merci. Bonne fin de soirée. Très bien. Puis nous, on va marquer une dernière pause avant la fin de cette première heure. Et puis vos appels du côté des standards, c'est plein à craquer.
18h, 20h, Fou de sport. Avec Mourad Marouf sur Beurre FM.
Et c'est reparti pour la deuxième heure de Foot de Sport. Alors, naturellement, comme vous le savez, ici à Beurre FM, on vous laisse vous exprimer, mais aussi, nous, dans notre intime conviction, nous sommes également en mesure d'apporter ce qu'on appelle ce fameux droit de réponse. Aujourd'hui, l'information circule tellement vite via les réseaux sociaux, via des déclarations, etc., que il faut pas tout prendre pour argent comptant, mon cher Mourad. Bah, un tel a écrit, etc. et tout. Enfin, moi personnellement, ce sont des propos sur lesquels je ne m'engage pas, parce que tant qu'il n'y a rien d'officiel, on peut pas travailler sur de la supputation. Voilà, il fallait quand même que je fasse cette mise au point. C'est très important. S'il n'y a pas un document officiel qui atteste du genre « oui, Sadi veut péter Belmadi, etc. » et tout, ça... Bon, franchement, Voilà, c'est, on va dire on tient ça par le bout des lorgnettes, ça n'a pas de sens. Je veux dire qu'aujourd'hui, le seul qui a la réponse aujourd'hui, c'est Jamal. Et Jamal devrait s'exprimer. Enfin, on attend tous qu'il nous fasse une conférence dans laquelle il doit dire aussi ses vérités, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, etc. Après, donc il y a peut-être aussi cette histoire de contrat qui a été signé jusqu'en 2026, s'il y a cette histoire des indemnités. Est-ce que toutes ces déclarations qui ont été faites auparavant et qu'on lui a imputées ne sont peut-être pas de lui? Donc moi personnellement je préfère l'écouter lui dans ses propos. Voilà ce que je sais pas ce que t'en penses toi coach, mais moi c'est vraiment mon avis quoi.
Ah oui non, faut rester très sous une affaire qui est en justice.
Oui.
Où la moindre information va être récupérée ou par l'un ou par l'autre pour montrer que l'autre a tort, on va dire. C'est compliqué, ça faut rester très soft et les actes ont été posés, Jamal est parti, le temps va passer, le temps va s'écouler, la raison va revenir, ouais. Tout doucement. Et ce qu'on va penser qui est important aujourd'hui, demain, va montrer que ce n'est pas du tout important.
Oui, parce que Nasser, il y a déjà une échéance là, courant mars, ce fameux tournoi à Alger.
C'est quoi le tournoi à Alger là?
Écoute, à la base, il devait y avoir quatre équipes, tu sais, parce qu'avec les dates FIFA.
Ouais.
Y avait ce qu'on appelle un vide dans le calendrier. Et à l'époque, Jamal voulait profiter pour faire, je crois que c'est deux ou trois matchs dans ce mini tournoi international. Parce qu'après les prochaines dates, il faudra attendre le mois de juin pour les deux matchs de Coupe du Monde notamment.
C'est ça.
Ouais. Et c'est une aubaine aussi pour les nouveaux arrivants en sélection de venir et puis de les voir à l'œuvre, notamment pendant ce tournoi.
Oui, mais au mois de mars, les joueurs ont joué depuis 11 mois.
Oui.
Ça fait 11 mois qu'ils courent, les mecs. Si tu peux leur donner un peu de récup ou un peu de un stage d'oxygénation ou.
On est sur une fenêtre FIFA Nasser.
Ouais. Pourquoi il y a quoi cette période là mars? Il y a des championnats d'Europe?
Oui, c'est au niveau européen, je crois. Oui.
D'accord.
Ouais.
Non, mais pour revenir sur ce qu'on disait là, oui. Chacun a ses torts, chacun a ses raisons. Maintenant, l'histoire a fait le temps va donner raison au temps. Mm. Le temps va donner raison au temps. Ça veut dire que plus le temps va passer, tout va se va se fluidifier, tout va, ce qui était énorme hier va devenir rien du tout dans deux temps, trois mouvements. Donc il faut que ces gens-là, on arrive à comprendre qu'il faut prendre un peu ce que font la diplomatie, prendre beaucoup de temps pour que les nerfs se calment, pour que tout se calme, pour qu'on se retrouve derrière une table et qu'on règle le problème, il va être réglé. Après, Jamal, oui, mais moi tu me dis ce que tu veux, moi je suis factuel, c'est-à-dire que un et un ça fait deux. Tu loupes la Coupe d'Afrique. Tu loupes la Coupe du Monde, tu reloupes la Coupe d'Afrique. C'est gentil l'Algérie déjà. Moi j'ai connu pour moi pire. C'est pour te dire que voilà. Donc après, faut partir grand parce que t'as été un grand, t'as fait des choses très importantes. Après c'est un renouveau. Et l'Algérie c'est l'équipe nationale d'Algérie. On n'y est pas à vie, on y est parce que tu vas relancer le football de ton pays et l'équipe phare qui est l'équipe nationale A. Elle a besoin aussi de ça, puisqu'on l'a vu, nous aussi, on le voit, il y a des lacunes qui sont énormes aujourd'hui. On sent qu'on est tombé dans le trou, on est dans un précipice, et on tombe, on continue à tomber, là, on n'a pas fini, comme on l'expliquait tout à l'heure, suite avec le match du Cameroun, qui a été terrible, mais bref, j'ai pas le mot pour dire. Donc aujourd'hui, que Molina dit ça, que les autres font attention à ce que disent les gens, surtout quand c'est des étrangers, quand c'est encore entre nous, c'est entre nous, on se parle, on se dit des choses, mais quand c'est des gens qui savent de l'extérieur, il aurait dit, il a vu, moi je vois pas comment Walid Sarani, président de la Fédération de la FAF, aille voir des joueurs qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, parce que ce groupe-là, il l'a jamais connu, il l'a vu là, puis aller voir leur dire, Belmadi va sauter, c'est un truc de fou ça. C'est pas clair.
En fait, dès qu'il faut tirer sur le soldat algérien, on lui tire dessus quoi. C'est ça. Voilà. Bon.
Ça, faut prendre des pincettes et se mettre très.
On est d'accord. Ouais. Très bien. Allez, je retourne du côté du standard parce que il y en a qui attendent depuis un bout de temps. Allez, je prends dans l'ordre. On y va. Bonsoir. Allô.
Allô.
Oui, bonsoir.
Bonjour, c'est Mohand.
Oui, Mohand, bonsoir Mohand, comment vas-tu?
Ça fait trop d'appeler Nasser. Salut Nasser.
Oui, alors.
Appelle-toi Nasser.
Voilà, on t'écoute Mohand, vas-y.
Alors moi, ce qui est compliqué, c'est que quand on est auditeur comme ça, on entend
plein
de débats et on voudrait rebondir tout de suite, mais heureusement, c'est pas possible.
Eh oui, ça fait partie aussi de.
Voilà.
De la radio.
À la semaine dernière, il y avait un débat très intéressant. On disait par rapport à l'équipe du Maroc, après n'importe qui, voilà, par rapport à être meilleur, à, c'est mieux d'être demi-finaliste de Coupe du Monde ou gagner la...
La CAN.
La CAN.
Oui.
Bah moi, je serais en train de dire plutôt la demi-finale de Coupe du Monde.
Ah bah bien. Tu vois.
Parce qu'il y a eu un débat. Mmh. Parce que regardez l'équipe d'Algérie.
Oui.
L'équipe qu'on retient, c'est quoi? C'est 1982 qui a gagné. En plus, elle n'a même pas été en Coupe. Enfin, elle n'a même pas passé le premier. Elle a battu juste l'Allemagne, qui était une des plus grandes équipes du moment.
Oui.
Voilà, qui est arrivée en finale. Et juste un match, voilà. Et regardez l'équipe d'Algérie qui gagne la Coupe d'Afrique 1990. Vous vous souvenez, toi,
Je me souviens du buteur, Chérif Oudjani.
Oui, Oudjani, ouais, je me souviens. De Chérif Oudjani qui avait marqué un but, mais dans la mémoire des gens, on s'en souvient plus.
De qui?
On s'en souvient plus de la CAN 1990. Alors
oui, parce que déjà à l'époque, c'est une CAN qui se jouait avec 8 nations.
Mais c'est une CAN quand même.
Oui, bien sûr, on l'a gagné chez nous.
C'est une CAN quand même, en plus, c'est en Algérie. Je me souviens, c'est même passé. La finale, elle s'est passée sur TF1 en France.
Oui.
Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Et d'ailleurs, on a battu en finale le Nigeria.
Voilà, donc l'Algérie a gagné juste un coup contre l'Allemagne. Pendant des années, ils le repassaient à chaque fois.
Oui, parce que
je me souviens, pendant les vacances, à chaque fois qu'on allait là-bas, ils repassaient le match contre l'Allemagne.
Parce que ça a marqué les esprits.
Et regardez, par exemple, même regarde, demandez au Sénégal, est-ce qu'ils préféraient gagner la Coupe d'Afrique, la CAN, qu'ils ont gagné ça en 2022, c'est ça?
Oui, la toute dernière, oui. Enfin,
est-ce qu'ils auraient préféré gagner la Coupe d'Afrique 2022 ou... être demi-finaliste de Coupe du Monde au Qatar.
Oui. Non, je pense que pour les Sénégalais, la CAN était importante parce que celle d'avant, ils l'avaient perdue contre l'Algérie. Il y avait de ça.
Non, mais je comprends. Mmh. Mais si vous leur donnez à choisir, ils prendront la demi-finale. Hein.
Oui, parce qu'une Coupe du Monde, c'est une vitrine mondiale.
Oui, c'est pour ça que je disais, il n'y a aucune commune mesure.
Oui, non, mais on parle de Coupe du Monde, bien sûr. Bien sûr,
parce qu'il y avait un débat la dernière fois et voilà, donc
moi j'aurais préféré atteindre une demi-finale de Coupe du Monde.
Voilà, l'Algérie arrivée en demi-finale.
Ah, Hassala, ouais.
Et voilà. Ah. Et par rapport à Djamel Belmadi, normalement, s'il avait un peu de. Après, je ne veux pas le juger.
Avec
toutes les trois catastrophes de suite.
Oui, c'est ça.
Il aurait dû partir comme un seigneur. Voilà, après lui, il a le droit aussi de partir avec ses droits, donc partir avec des indemnités, parce qu'ils sont en train de négocier.
Je pense qu'il y a de la négociation dans l'air, c'est ce qui est normal.
Pas si l'Algérie, elle l'a congédié ou pas ou officiellement?
Non, pour l'instant, il n'y a rien. Oui, on dit qu'il est parti, mais il n'y a pas d'officialisation de la fin du contrat, il n'y a pas de signature. Jusqu'à preuve du contraire, quand tu ne trouves pas d'accord, donc ça veut dire que tu négocies.
Est-ce qu'il va rester?
Non, je ne pense pas. Après trois échecs, non. Honnêtement, ça vaudrait mieux que qu'on passe à autre chose. Voilà, c'est tout.
Ouais. Juste pour finir, pour faire un petit incise avec Nasser, c'est la nouvelle Algérie, quoi.
Oui.
En avant, ça sera comme avant.
Non, je suis pas forcément d'accord, non.
Vous pas être d'accord.
Ouais. Chacun son opinion.
Chacun son opinion.
Merci à moi. Merci. Allez, je continue. Notre invité est arrivé. Il n'est pas encore installé correctement. J'ai le temps de prendre un autre auditeur qui est là, pareil, depuis un bout de temps. Ah, on y va, bonsoir.
Allô?
Oui.
Bonsoir, Mohamed.
Ah, Mamadou, bonsoir. Comment vas-tu?
Bien, je m'apporte bien. On est à la finale aujourd'hui. Hein.
Ah, oui,
il y a au resto.
Mais ce qu'il y a, c'est que je viens d'entendre les auditeurs précédents qui ont parlé du football, effectivement, il y a le football français. C'est qu'il y a l'histoire du football français, l'Algérie, football algérien, ça compte quoi. Zidane, pour moi, il est historique dans le football français. Quand tu regardes l'équipe nationale aujourd'hui, c'est pas dressé le voyeurisme, on voit moins des Algériens ou des Maghrébiens, sauf Mbappé qui est métis, et d'ailleurs il représente l'Afrique, parce qu'il est métis entre les Arabes d'Afrique et les Noirs.
Ben oui,
donc,
Algérie, Cameroun.
Oui, effectivement, c'est là qu'on voit que la différence est une richesse, quoi. Tout être humain est riche humainement, quoi. Donc, sur ce côté-là, les fédérations, ils devraient se battre, parce qu'il faut aussi voter, parce que contre la politique menée, il ne faut pas violer les droits positifs des gens, des enfants. Il faut respecter nos droits républicains, même le football, si c'est comme ça, les fédérations devraient intervenir.
Ouais.
Ce sont des citoyens qui sont nés ici, ils ont leurs droits politiques et leurs droits positifs, mais le droit politique n'est toujours participer aux élections pour voter. Donc sur ce côté-là, même on parle de l'islam, effectivement, parce que l'islam c'est une religion, c'est une foi intime, mais ce n'est pas une raison que Benzema, par sa foi, qu'il soit convoqué par le ministre de l'Intérieur. Donc la religion a été toujours une communauté, c'est pas attaquer notre citoyenneté, notre ministre de l'Intérieur. Mais ceux qui disent que CFCM, c'est pas représenter une religion culturellement, même le droit religieux, qui devrait représenter. Donc pourquoi je dis pas qu'il faut manifester, parce que dans notre pays aujourd'hui, l'islam ce n'est pas en danger pour la France. D'ailleurs, la France, elle est musulmane. Quand je prends le passé, Malik Bennebiou, qui se mariait avec une Française, qui m'a vraiment convaincu de son attitude de la religion, qui était algérienne.
Mais là, Mamadou,
c'est pas possible, ça.
Mamadou, là, on n'était pas en train de parler du foot, on saute du coca-là.
On laisse ça de côté maintenant. Ouais. Mais moi, je parle de foot maintenant. Le foot, effectivement, on revient aussi le foot. Bon, sur ce côté-là, je reviens, de ne pas respecter la dignité humaine, le droit humain, tout simplement. Dans notre pays, avant que l'extrême droite vienne, il faut dire que c'est pas possible qu'il n'y a pas des joueurs algériens, maghrébins qui peuvent rentrer dans l'équipe nationale. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible.
Ouais.
Il y a quelque chose qui ne tient pas debout. Bon. C'est pas dresser les gens contre les autres, mais c'est une réalité. Voilà. Donc, bonne continuation à vous. Merci.
Merci Mamadou de Grenoble. Bonne soirée. Eh ben, avant de prendre la suite des auditeurs, puisque maintenant, l'un des invités a réussi à arriver malgré une circulation dense ce soir dans Paris. Pourtant, nous sommes en vacances scolaires dans cette fameuse zone. Ça doit libérer de l'espace. Notre juriste, monsieur Ahmed Lodni, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, Razoul.
Comment vas-tu?
Ça va, très
depuis
bien.
Depuis le temps.
C'est vrai qu'on a passé une période un peu difficile, mais bon, ça va.
Ouais, période difficile à cause de nos résultats?
Non, à cause de ce qui se passe en Palestine, surtout. Surtout. Et puis, la saison, le début de saison était un peu compliqué, sur le plan juridique et tout ça. Dans les entreprises, c'est pas facile.
Ah oui, d'accord.
Pas facile du tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent sur le plan de la fiscalité, droit du travail, donc ça chamboule énormément l'échiquier, que ce soit d'ordre syndical ou autre, quoi, ou des branches. Bref, je ferme la parenthèse.
Ouais.
Même Fédération algérienne, ça bouge beaucoup, quoi.
Puisque maintenant, alors c'est le silence côté fédération, c'est le silence côté sélection, on a du mal à s'y retrouver. En tout cas, on va discuter de ça rapidement, juste après cette pause, mon cher Ahmed, parce qu'il va bien falloir parler quand même de ces sujets qui intéressent les gens, puisque là, on va être dans l'aspect juridique. Les tenants et aboutissants d'un contrat, voilà. Derrière le contrat, il y a, passe-moi l'expression, ce que j'appellerais le sens de l'honneur, sur lequel je dois revenir juste après.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Juste avant de revenir sur la question avec Ahmed, notamment sur cette histoire de contrat juridique et de la relation qu'il y a entre un employeur et un employé, je prends quand même un auditeur qui est là depuis un bout de temps je reviens vers vous. Bonsoir, bienvenue. Allô. Bon. Allez, du coup, je reprends le sujet avec toi, Ahmed. Donc, quand il y a ce qu'on appelle une signature, il y a deux parties toujours dans un contrat. En l'occurrence, il y a la fédération, il y a le sélectionneur national. Donc, il y a des termes juridiques, il y a une durée de contrat. Alors, en principe, dans chaque contrat, dans chaque contrat, il y a ce qu'on appelle des objectifs. Ça, on ne connaît pas la nature du contrat. Et puis, lorsque tout fiche le camp, oui, c'est le cas de le dire, que fait-on et comment peut-on arriver à concilier les parties? Je suis très soft dans mon propos.
Oui, moi je vois peut-être autrement que ce que j'entends à travers les youtubeurs, les influenceurs.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Moi, je n'ai pas non plus la regarder.
Voilà.
Excuse-moi.
Moi, en tant que juriste, si j'ai pas les éléments, voilà, qui fondent ce contrat ou cette convention qui lie la fédération à un sélectionneur, je ne peux pas m'avancer. Mais ceci dit, qu'il y a des éléments qu'on a en notre possession à travers nos réseaux, nos amis, etc., où je me pose beaucoup de questions. Nous sommes en 2024. Il y a une fédération algérienne de football instable. Qui dit instabilité, dit le risque juridique est très élevé. Que ça soit dans une organisation, peu importe la branche, sport ou autre. Vous imaginez trois présidents de fédération
En deux ans,
une période, mais vraiment... Voilà,
Charles Fettina Armara, Djahid Zifizef, et puis maintenant Walid Saadi.
Voilà. Ouais. N'oublions pas que même actuellement Walid Saadi, je pense, si ma mémoire est bonne, il a un an et demi à finir.
C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis là pour finir un mandat.
Donc nous sommes quand même dans une structure sur le plan juridique très fragile. La première fragilité qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas eu réellement un diagnostic juridique, un bilan dans la passation, d'accord, de la présidence. Ça veut dire que l'audit est défaillant. Quand on fait un audit, on donne la main ou les clés de la fédération à un autre président, on doit être transparent au niveau de l'audit et sur le plan juridique, c'est-à-dire tout ce qui est contractuel. Que ce soit avec les sponsors, droit TV, etc. Le programme, l'organisation, etc. Moi, je pense qu'on avait deux fédérations sur le plan juridique. Ils ont donné l'autonomie à Jamel, qui gérait presque tout seul, tout. Et ça, c'est une erreur.
Jusqu'au gazon des tiers.
Voilà. Ouais. Parce que lui, je le comprends, il considère qu'il n'y a pas de gens compétents. Donc, forcément, je dois veiller jusqu'au terrain, quoi, vérifier Voilà, bref. Moi, ce que je reproche à cette fédération, depuis bien longtemps, et je l'ai dit ici à l'antenne, c'est qu'on est toujours dans le système du piston.
Le khalisme ou benhamisme.
Exactement. Ouais. On appelle tel, on désigne tel. Voilà. On ne travaille pas sur la base de ce qu'on appelle la compétence. Sur la base de la transparence. Sur la base de la responsabilité et des objectifs à atteindre. C'est ça. Si dans les entreprises modernes aujourd'hui, ou que ce soit dans les fédérations modernes, allemandes, françaises, etc., il y a des objectifs tracés, contraires actuellement. Si je reviens à la situation de Jamel, c'est que son contrat qui a été signé avec Zachi stipulait qualification Coupe d'Afrique, qualification Coupe du Monde.
D'accord. On parle de qualification.
Qualification.
Okay.
Donc, premier contrat qui a été renouvelé, pas entièrement, c'était juste un bout de papier, ça s'appelle un avenant. Un avenant en droit, c'est une modification du contrat. Si dans l'avenant, tu refais pas l'ensemble des articles et tu les revois par rapport à de nouveaux objectifs, c'est uniquement les deux ou trois phrases que vous avez mis sur l'avenant qui restent applicables. Le reste inchangé. C'est-à-dire les anciens articles restent inchangés.
Applicable alors ?
Applicable. Maintenant, la position de Jamel en tant que sélectionneur, peu importe les éléments, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Ça doit être que des juristes qui lui ont dit ne bouge pas, ne parle pas. C'est une arme juridique, le silence.
D'accord.
Ah oui, y compris idem pour Walid. Walid, s'il fait une conférence de presse, il répond aux journalistes sur certaines questions, la FIFA va sanctionner la fédération et Walid.
D'accord.
Donc, vous voyez, donc, il y a de l'esprit revanchard des deux côtés. Voilà. Il y a des clans, comme d'habitude, hein, oui, dans les fédérations, qui veulent profiter de la faiblesse de tel et tel et tel pour commencer à... à mettre certains réseaux voilà à la Fédé, et ça c'est connu hein, c'est pas voilà, c'est connu depuis bien longtemps. Maintenant sur le plan vraiment analyse juridique. Le contrat de Jamel à la base c'est la 80% des articles restent inchangés ce qui a été signé avec Zatché.
Très bien.
Maintenant si on peut y aller plus loin dans ce blocage, voilà. Moi, je pense que ce blocage, il n'est pas juridique. Il y en a beaucoup qui spéculent qu'il veut son argent. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que son silence, c'est une réponse à une mascarade qui a été orchestrée. D'accord ? Et la meilleure réponse juridique, c'est le silence. Parce que si Jamel, il dit, moi, j'ai un contrat, respectez mon contrat.
Ce qui est vrai.
Ce qui est vrai. Si la fédération voulait respecter le contrat, ben elle le convoque conformément au contrat, aux traditions, aux pratiques juridiques qu'on fait partout, que ce soit dans les clubs, dans les sélections. C'est à partir de là que vous pouvez prouver que le sélectionneur a quitté son poste. C'est un abandonnement de poste. Apparemment, ce qui se passe, apparemment, il y a eu une information qui circule à vérifier, qu'ils ont fait une correspondance avec la FIFA en disant « voici la situation, elle est conflictuelle, elle est dans une situation de blocage ». Que nous souhaitons faire ça, ils attendent la réponse de la FIFA. Bon, c'est encore de l'amateurisme.
Ah, c'est encore de l'amateurisme. Oui, ce qui fait mal, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en février, quasiment à la mi. Bientôt, ce fameux tournoi du mois de mars, c'est cette fameuse fenêtre FIFA, où on n'a toujours pas de sélectionneur. Qui pour driver les Fenech ?
Alors, aucun sélectionneur n'a le droit de signer avec la Fédération algérienne, sur le plan juridique. Aucun.
D'accord.
Ah, aucun. Aucun. Sauf si un amateur qui vont ramener, je ne sais pas, de Boufarik ou d'Alger, ou je ne sais pas. Ou... Non, mais franchement, mais aucun. Un très bon sélectionneur entouré par des juristes, ils ne vont pas lui. Un engagement, oui, mais un contrat déposé auprès de la FIFA, mais ça ne passera pas. Tout est dématérialisé aujourd'hui.
Oui.
Le logiciel va vous refuser. Parce qu'il faut résilier le contrat en cours pour remettre un nouveau contrat, y compris pour les joueurs.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
N'est pas le cas. Donc c'est quoi la réponse d'un sélectionneur qui va au Qatar, qui dit rien? C'est une réponse politique, juridique et de l'esprit revanchard. Attention.
C'est les trois combinés là.
Ah oui. Maintenant sur le plan juridique, comment ils vont régler ce problème? Eh bien, ou bien vous licenciez votre employé, d'accord, et vous assumez les conséquences
du paiement des indemnités.
Exactement.
Liées au contrat.
Voilà. Et puis. Ou bien vous trouvez un accord à l'amiable à travers les réseaux, l'ambassade, les consuls, les trucs, les hommes d'affaires, les amis. Bon, bref, ce qui est connu un peu partout, hein, pas spécifiquement en Algérie, ça se passe comme ça dans le monde du football, de haut niveau et dans les sélections. Moi, ce qui me choque dans cette histoire-là, c'est qu'on est arrivé en 2023-2024, quand même 21e siècle, à faire des erreurs juridiques de ce niveau-là. C'est-à-dire ramener une personne à 200 000 euros faire un contrat des avenants bâclés. C'est du bricolage, pour ne pas dire c'est du rafistolage d'un niveau. Alors que je connais très très bien le secrétaire général de la fédération, Nadel Bouznet, quelqu'un de très compétent. Très très compétent. Comment on peut faire ce genre d'erreur? Est-ce que c'est une volonté politique? Voilà, parce que quand même, il y en a beaucoup qui profitent de l'instabilité, ils veulent avoir la même mise sur le football, voilà, politiquement, pour jongler avec la société et montrer qu'au-dessus de tout le monde, il y a des gens qui gouvernent. Ça peut. Cette analyse peut se faire, en tous les cas, elle est légitime, elle peut se poser en tous les cas.
Mais politiquement, la personne ne peut pas intervenir parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle cette épée de Damoclès, signée FIFA.
Tout à fait. Voilà. Et toujours le sauveur, c'est nous.
Oui.
Ils viendront la dernière minute pour dire, on est là pour vous sauver. C'est dommage parce que moi je pensais honnêtement éviter cette problématique quand on a perdu avec le Cameroun.
Oui.
C'est là où il fallait revoir, faire un avenant avec l'ensemble du contenu du contrat initial. Vous savez, j'ai entendu à la radio, on m'a envoyé des liens par des amis. Il y avait des journalistes, soi-disant des pseudo-journalistes, je ne suis même pas sûr, c'est des vrais journalistes, hein, ou des pseudo-juristes, qui disaient que la nouvelle règle parle de 6 mois. Vous avez entendu de ça? Que l'indemnisation, si on fait rompre le contrat à Jamel, on va lui donner les 6 mois. D'autres, ils disent, 3 mois.
C'est ça, c'est tout ce qui a été écrit, effectivement.
Oui, vous savez, ça c'est de la lecture des non-juristes. C'est simple. Vous ne pouvez pas faire une lecture ou donner un avis motiver ou éclairer sur un contrat. Un, il faut avoir les éléments. Deux, ceux qui parlent de 6 mois ou de 3 mois, ils ignorent complètement que le contrat, dans son contenu, reste inchangé. L'avenant n'a pas changé tout le contrat. Et à partir du moment où tu n'as pas changé tout le contrat, tu lui dois ce qui lui reste de la durée du contrat.
À échoir.
Exactement. Mes infos que je garde pour moi, Jamel ne veut pas d'argent.
D'accord.
Voilà. Jamel, il a un autre souci avec le nouveau président. Voilà. Et puis, il considère à titre d'exemple. Voilà, je ne vais pas m'étaler trop, mais à titre d'exemple. Vous avez entendu que Walid Saadi, par exemple, que je connais bien, hein, oui. J'ai pas de souci avec lui, mais il a apparemment donné une réclamation, il a déposé une réclamation auprès d'un responsable de la CAF concernant le deuxième match.
Oui, contre le Burkina.
Voilà, et avant le match de la Mauritanie. Ouais. À la surprise de tout le monde, on ne dépose pas une requête de contestation ou ce qu'on appelle un droit d'alerte parce qu'il y a un risque de sabotage d'un match dans les tribunes. On le fait à travers le secrétariat général de la fédération sur ce qui existe à la FIFA actuellement. Vous avez un site et vous devez, à travers la CAF ou la FIFA, si vous avez un problème, ça dépend c'est quoi compétition, à alerter les autorités ou les instances compétentes en la matière sur une problématique, par exemple, de la commission de l'arbitrage. On ne donne pas dans les tribunes, dans les salons VIP, une demande qui n'a pas été enregistrée en bonne et due forme.
C'est une image que tout le monde a vue d'ailleurs.
Et ça, Jamel n'a pas apprécié quand il a vu que y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien Walid, il est mal conseillé, ou bien il est induit en erreur dans un but de régler des comptes avec Jamel ou avec X ou Y. Voilà. Il y a eu d'autres soucis qui ne relèvent pas du droit. Mais moi, ce qui m'étonne, on est arrivé à un niveau sur le plan de l'arsenal juridique et les pratiques étonnantes. Je conclue. Ils ont mis une commission pour choisir un nouveau sélectionneur. Tout le monde parle de ça.
Hein. Bien sûr.
Dont à la tête, il y a Rabah Saden aussi. Moi, je me pose une question. Est-ce que dans les statuts, dans le règlement, dans la pratique de l'Algérie, on a le droit de mettre une commission comme ça du jour au lendemain pour choisir et mettre les critères à déterminer qui est le bon sélectionneur, qui est le mauvais? Est-ce que ces gens-là, ils sont compétents? J'en sais rien, moi, je suis pas dans le technique. Est-ce qu'ils sont compétents de choisir? Moi, je vous dis, sur le plan purement juridique, ça n'existe pas. Ni dans la tradition, ni dans les statuts, ni dans le règlement. C'est une invention de la dernière minute, point d'interrogation, par qui? Je ne peux pas répondre à cette question.
Est-ce que ce n'est pas l'influence des réseaux,
en droit, vous savez, ça existe ce genre de... je dirais de politique. Ça, c'est quand on veut fuir sa responsabilité.
D'accord.
D'un nouveau échec, on balance à une commission collégiale, paritaire, du blabla, ad hoc et tout ça. Oui. Ça, c'est fuir là. Alors moi, je vais me poser encore plus de questions. Je m'interrogeais hier avant-hier, j'ai dit, allez, supposons la commission a décidé quelqu'un et on a réglé le problème à l'amiable ou devant les instances juridiques, le cas de Jamel. Ok, c'est réglé. Le nouveau arrive et on subit des échecs. Qui démissionne? Le sélectionneur? Ou c'est Walid ou la commission?
Ah oui.
Qui démissionne? Donc voyez que sur le plan juridique, on n'est pas clair. Si les statuts avaient, par exemple, moi j'ai une idée, moi je l'avais proposé un jour à Nadir, et j'espère qu'ils vont le mettre, moi je leur ai proposé un truc à l'époque. Je leur ai dit, vous savez, dans les statuts, vous mettez des articles comme la Constitution.
Oui.
Ça ne bouge pas. Un sélectionneur, quand il arrive, d'accord, le contrat doit stipuler des objectifs avec un échéancier, un calendrier fixe. Si les objectifs ne sont pas atteints, le contrat ne pourra jamais être reconduit. Un truc de socle, c'est-à-dire ils ne bougeront pas avec les bureaux, les présidents. Ça, c'est des failles et c'est un vide juridique prémédité, j'ai l'impression, en Algérie.
Est-ce que ce n'est pas dans les fameux avenants que... Non.
Dans les avenants, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que...
Ça on le fait quand il y a ce vide.
Oui.
Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi on est dans cette situation-là?
Oui.
Mais je vous dis, moi je pense que... Moi, il y a des moments où je me disais, mais est-ce que vraiment le niveau, il n'est pas bon ou c'est fait exprès? Moi, de plus en plus, je pense que c'est fait exprès. C'est pas question de niveau.
Ouais, mais sauf que là, tu arrives
on
à un point.
On a des très très bons juristes quand
mais
même.
Oui, mais c'est
dans
ça.
Le service juridique là-bas. Mais c'est... Ouais. Non, moi je pense qu'il faut revoir le statut du président, ses attributions et le bureau fédéral. Il faut. Bon, on a une assemblée générale qui dit oui à tout le monde. Quand on leur donne par SMS à dégommer Walid, vous allez voir, ils vont le dégommer. Non, mais c'est une réalité.
C'est affreux.
C'est affreux. Oui. Mais on est à ce niveau-là. Maintenant, moi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de questions que je peux me poser et puis que je peux poser à pas mal de responsables. Oui. Mais je n'ose pas parce que ça peut créer d'autres problématiques. Parce qu'on peut déranger à travers les questions sur le plan juridique si on commence à les poser. Et on risque même d'avoir des problèmes au bled. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Ah oui, parce que le football en Algérie, c'est très, très sensible. Hein. Ouais. Moi, je ne pense pas que Walid, aujourd'hui, il a le pouvoir de décider de quoi que ce soit. Vraiment, je m'interroge. Je m'interroge. Est-ce que ce n'est pas aussi prévu pour déstabiliser l'Algérie à travers le football ou à travers un sélectionneur voilà. Moi, je pense qu'il y a un risque quand même. Il y a un risque, vu le contexte politique national, international, avec nos voisins, etc. Et ça reste que du football, finalement. Il ne faut pas que les gens oublient ça.
C'est
un plaisir, c'est un jeu. Il ne faut pas qu'on rentre dans des délires. Mais moi, je vois les youtubeurs, des trucs de fous.
C'est pour ça que j'ai fini par les zapper parce que...
C'est fatigant quand même.
C'est fatigant.
Il y a des enfants qui meurent en Palestine et eux, ils nous inventent des trucs 6 millions, 7 millions. Le mec, il revendique. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est une question. Quelles sont les valeurs, les principes de notre fédération à respecter, peu importe c'est qui le sélectionneur. Quelles sont les durées qu'il faut mettre dans les contrats. Quelles sont les options ou ce qu'on appelle les clauses échappatoires pour sécuriser les contrats en cas d'échec. C'est vrai que dans l'éthique du football et du sport, quand il y a un échec, automatiquement, un sélectionneur, peu importe l'activité, voilà, il va dire, bon, je vais laisser ma place à d'autres. Quitte à revenir après.
Oui.
Parce que peut-être l'effectif financier est mieux placé pour expliquer sur le plan mental, repenser, innover.
L'électrochoc.
Voilà. Mais après, s'il y a d'autres questions, on répondra. Sinon,
bien sûr. Oui, vas-y.
Oui, non. Mais écoutez, Ahmed, bien sûr.
Avec beaucoup d'intérêt, parce que là, on a eu les réponses.
Je connais bien, je connais bien.
Par rapport à tout ce qu'on a entendu.
Je connais bien, mais ce que j'allais lui poser comme question, mais c'est dans le monde entier, c'est comme ça, moi. C'est partout comme ça, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, ou que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, on est dans ces jeux de pouvoir. Et là aujourd'hui, la question tu l'as posée à la fin, la vraie question, tu l'as dit, avec les enjeux politiques qu'il y a aujourd'hui, et vu la stratégie, ce qui se passe exactement dans ce monde-là, est-ce qu'aujourd'hui on doit déstabiliser, ou est-ce que le jeu de déstabiliser ces gens-là, c'est voulu ou pas? Et est-ce que Walid Saadi a les épaules pour tenir cette pression-là, réellement? Moi, la question est là, moi. Je me pose vraiment, quand je vois ce qui se passe, bon, un petit peu au courant, j'ai dit, Jamel, il a couvert tout le monde. Hein. Le fait d'être qu'il a été, il a couvert tout l'arbre qui a caché la forêt. Hein. Là, aujourd'hui, on l'enlève, hop, on aperçoit plein de choses. Oh, regarde, le contrat, le truc. Bon, au-delà de ça, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, tu l'as bien dit, c'est comment tu récupères tes joueurs, comment tu montes une équipe, comment tu vas monter une crédibilité vis-à-vis de ces gens-là pour dire, voilà, ton équipe a repart, mais mon monsieur, t'as les trois quarts des mecs qui ont joué avec Jamel Belmadi, qu'est-ce que tu sais ce qui va se passer derrière? C'est ça l'histoire. On est là-dessus. Et là, on est dans le propre des objectifs, comme tu le disais si bien. La Coupe d'Afrique aura lieu au Maroc, il aura pas lieu n'importe où, elle a lieu au Maroc, et t'as la Coupe du Monde derrière. Tu crois que l'Algérie va accepter de perdre une qualif qui est là-dessus? Ah. Donc ça veut dire que lui, je pense, il a mis ça comme carotte derrière. Moi, je peux revenir, je peux faire ce qui fait vendre là, ou on lui dit non. Non. Moi, j'ai dit non. Parce qu'il est ce qu'il est, Jamel, je connais bien, j'ai vu son parcours, je connais très bien, je sais, quand t'es dans des échecs comme ça, tu vas à la catastrophe, tu vas dans le trou. Mais c'est clair, on y est là. Je veux dire, le match du Cameroun, il a fait une telle explosion qu'on ne s'en rend même pas compte de ce qui s'est passé. C'est tellement été énorme pour nous de l'avoir vécu déjà nous à l'intérieur, mais quand je le vois à l'extérieur, mais quand je le vois, bah, comme tu expliquais, fédération, pas de président, aucune légitimité politique, voire administrative, ça, à un moment tu reconnais même plus ton président, tu sais même plus c'est qui.
Une dernière pause, si vous permettez, puis après on revient, parce qu'il va nous rester un bon quart d'heure.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport. Sur Beurre FM.
Allez, dernière partie de cette émission. Ahmed voulait répondre à Nasser.
Oui, pas répondre, mais juste compléter ce qu'il vient de dire Nasser. C'est que nous sommes en train de subir, sur le plan purement juridique, c'est une paralysie, hein. C'est un dysfonctionnement, ça bloque tout le monde. C'est l'erreur juridique. On aurait dû prévoir un modèle de contrat, 2-3 clauses qui ne bougent plus jamais, peu importe les sélectionneurs, peu importe, et ça, il faut les intégrer dans ce qu'on appelle les statuts et le règlement intérieur. Peu importe le bureau fédéral, peu importe le président, peu importe le sélectionneur, minimum 2 clauses, parce qu'un sélectionneur, une équipe nationale, a 2 échéanciers. En gros,
oui.
Ça peut être 3, peut-être Jeux Olympiques, j'en sais rien, mais 2, l'équipe A, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde.
On
autorise un échec, mais pas 2. Vous voyez, automatiquement, le président, il ne peut pas. Ce vide, comment Walid, il arrive ? Zvizef, il arrive, ils font un avenant, je ne sais où, ils ne regardent pas du tout, ils ne font pas un vrai diagnostic. S'il nous arrive ça, comment on va régler le problème? Quand même, l'équipe nationale, c'est le peuple algérien. 99%, tout le monde regarde l'équipe A.
Ouais.
Comment tu peux faire une bêtise de ce niveau-là? Moi, je suis, franchement, je n'arrive pas à trouver la notice pour déterminer comment on peut, le cerveau peut arriver en 2024 à faire ce genre d'erreur. Mais franchement, n'importe quelle entreprise, PME, PMI, ne feront pas cette erreur-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont prémédité le chaos.
Ah, ce qui serait très grave. Bon, je prends un auditeur du côté du standard.
C'est normal.
Oui.
Connaissance et concours.
Normal. Ben oui. Bonsoir.
Bonsoir Mohamed, bonsoir coach.
Bonsoir. Bonsoir Ahmed, la voix de Mahalez, oui.
Oui, bonsoir monsieur Ahmed, c'est ça. Hein.
Bonsoir. Oui, Ahmed, oui. On t'entend pas attends.
Ouais, j'ai un bon commentaire, c'est un grand bonjour parce que la dernière, je n'ai pas pu intervenir.
Ah, voilà, parle plus fort là, ouais.
Quand j'étais. Hein.
Voilà, bah oui, baisse quelque chose là parce qu'il y a.
Oui. Alors moi, j'ai entendu monsieur Metteza qui est très bien, on voit qu'il maîtrise bien au niveau juridique et tout ça. Moi, je suis une bonne moitié partagé avec lui sur beaucoup de choses, ce qu'il a dit. Même sur Jamel Belmadi, Jamel, c'est pas quelqu'un qui cherche les intérêts, quoi que ce soit. Comme certains. Parce que le problème, c'est même pas les étudiants, les plateaux médias télé. Ils ont fait plus qu'abuser certains. Et il faut que signaler qu'aujourd'hui, même le ministre de la Communication les a rappelés à la retenue. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, ces gens-là, même là, ils font comme si la surdorée, en train de en fait la pluie, mais comme c'est des services, ils n'ont pas compris qu'il a fait un message à eux. Parce que moi, je les entends les plateaux médias. Ils ont balancé beaucoup. Aujourd'hui, ils reconnaissent que beaucoup de choses qui se passent entre Kadi et Belmadi. Moi, ce qui me dérange un peu, je vous posais la question, parce qu'en fait, c'est plus le deuxième contrat. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Très bien. Pardon, entendons très bien.
Ce qui me dérange un peu, c'est que dans le contrat, on nous parle, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'entends. Belmadi ne peut pas parler en ce moment, l'autre de son côté ne peut pas parler. Mais il y a deux choses. Au-delà du communiqué de la fédération, le tweet, une erreur professionnelle, là aussi, le truc dans le titre de la presse qu'ils ont fait, une erreur professionnelle, ils ont fait croire aussi qu'ils ont démissionné, c'est pas vrai. Et en plus, ils ont retiré dans le titre de la fédération. Moi, déjà là-dessus, j'ai. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que on a été élu, on va dire entre guillemets élu, parce qu'il n'a pas été élu, ça dit, mais moi je suis d'accord avec vous, ça dit, c'est pas lui qui décide. Hein. D'autre côté, certaines personnes, derrière la personne, il y a des marques qui sont cachées pour en train de téléguider les choses. Et attention, hein, parce que c'est pas le pouvoir, quoi que ce soit, qui croit que c'est l'État, c'est pas l'État. C'est des gens qui veulent revenir dans le football pour casser le football algérien, dans leurs intérêts. Moi, ce qui me dérange, Sadi, il a été élu, il y a une passe à son mouvement avec M. Jared Wiesel. La logique, ce qu'elle dit, il doit voir ce qu'il y a dans le contrat et tout ça. Comment il s'assure qu'ils n'ont pas réétudié, il n'a pas fait Jamal Belmadi sur le terrain, ou bien, quoi, on s'assoit à table. Voilà, il y a des choses qui nous dérangent un peu. Est-ce que ça fait. Je sais pas, au moins dans l'esprit de sens.
Là, ça, je pense que je peux, même Sam Harris, moi-même, je peux te répondre parce que un, comme l'a dit Walid Saadi, il est arrivé pour finir un mandat. Donc tout ce qui a été signé avant, il ne peut pas le défaire. Hein. C'est ça, Ahmed, hein, juridiquement.
Mais même ça, il ne peut pas le faire.
Ahmed, alors.
Non, alors moi j'ai bien souligné tout à l'heure la problématique, la non maîtrise des audits en passation de consigne. Là, il y a eu un loupé. Deux, sur le plan juridique, n'importe quel président, quand il arrive, il a le droit d'envoyer une lettre recommandée en bonne due forme ou de s'entretenir avec un sélectionneur et de revoir avec lui et de compléter l'avenant. C'est-à-dire, minimum, s'il n'a pas, par exemple, Jamel ou d'autres sélectionneurs ne souhaitent pas qu'on retouche à son contrat, le Walid pouvait annuler ou rendre invalides les anciens articles qui figuraient dans son premier contrat avec Zocchi. D'accord ? Il fallait le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Est-ce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation politique ? J'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est faisable en droit. Quand vous arrivez dans une entreprise ou dans une fédération, c'est la même technique juridique. Hein. Il y a un avenant qui est flou, ambigu. Vous rappelez votre employé, vous faites le point, vous l'avez si bien dit, et on refait pas mal d'articles et de clauses pour permettre à l'un et l'autre, les deux parties, à les respecter. Et en cas de crise, parce que dans le droit du sport, c'est quoi le plus dur à faire ? C'est d'étudier les hypothèses les plus complexes en cas de blocage, c'est-à-dire si on arrive à un blocage comme celui qu'on vient de vivre, ou un contentieux, un litige, on a déjà prévu dans des annexes comment on peut résoudre le problème. Et on se quitte à l'amiable. Ce qui n'a pas été prévu, ce n'est pas dans notre culture. Dans notre culture, j'ai l'impression qu'il faut tout de suite se venger de celui qui réussit. Ça devient maladif. Et ça, c'est dans les gènes aujourd'hui. Ça, il faut repenser tout. Il faut inculquer à la nouvelle génération une nouvelle mentalité avec un esprit professionnel. Et c'est pas... Moi, franchement, j'en veux ni à Walid ni à Jamel. Je ne parle pas sur le plan technique ou résultat. Moi, je pense que l'arsenal juridique et le service juridique de la fédération, mais franchement, il faut les déraciner. C'est des gens à 70 ans. Ils pensent qu'ils ont 22 ans, les gars. C'est honteux. C'est honteux.
Une dernière question.
Oui, Mahrez.
Normalement, au niveau. Parce que pour un président de fédération, ça doit être indiqué, élu, tout ça. Parce qu'il y a le ministre de la fédération, il y a des décrets au niveau de l'État qui peut protéger aussi, non ?
Non, on peut pas faire des décrets pour une fédération. Une fédération, c'est une association. Si tu t'ingères trop, la FIFA va te sanctionner directement. Non, on peut pas. Par contre, sur le plan politique, il y a une souveraineté d'un État. Ils peuvent toujours convoquer, comme ils l'ont fait avec l'équipe de France. Hein. J'ai oublié le nom de la ministre quand il y a eu l'affaire en Afrique du Sud là, à l'époque.
Oui,
voilà, ils ont été rappelés. Et ça, c'est la souveraineté. La FIFA n'interdit pas de faire un audit, par exemple sur un harcèlement, une discrimination, une dérive, une manif comme en Afrique du Sud. C'est de faire le point. C'est tout à fait normal. Ça,
en France,
c'est
c'était pas Marie-Georges Buffet
Non.
Pas Marie-Georges Buffet. C'est comment ça s'appelle
C'est la nièce d'un ancien Sénégalais, là, j'ai oublié son nom.
Bref. Ouais, ah oui, je vois laquelle.
Ouais. Elle était à
en
Colombe,
tout cas, moi, je vous remercie.
Oui.
En tout cas, vous nous avez donné plein d'enseignements. Et je veux vous dire merci parce que pour votre compétence, vous nous avez donné des bonnes choses. C'est que certains incompétents de côté de la barre, on va s'attendre encore au malheur. Hein.
Non, mais merci beaucoup pour les compliments. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les auditeurs notent bien que le plus important, c'est de retenir les erreurs, c'est-à-dire de repenser quel type de contrat qu'on doit laisser, ce qu'on appelle une trame. Voilà, une trame ou squelette d'un contrat qui ne bougera plus jamais, et tirer les leçons des erreurs. Mais chaque fois, on tombe dans les mêmes erreurs et on ne sait pas comment on règle le problème. Comment ils ont ramené Jamel ? Moi, je vous rappelle, comment ils ont négocié avec Jamel ?
Et attendez, moi, il y a un truc qui m'a choqué. Hein. C'est M. Amroche, c'est ça ? finalement, c'est un footballiste de l'époque de Talal avec le Rabissad.
Non, Maouche, vous parlez de Mohamed Maouche.
Ah oui.
Maouche,
oui. Des gens intègres, compétents. Comment sur le truc là qu'ils ont fait, le truc là, mon Thomas, c'est ça?
Ouais.
L'arbitrement a déjà pensé. Là, là, pour les. Dans le futur sélectionneur.
La commission, oui, la commission paritaire, là, ouais.
Comment des gens intègres comme ça, intellectuels, parce que vous avez une intellectualité, hein, quand on les entend, ces deux personnes, comment ils ont pu se faire avoir dans cette. Moi, c'est ça qui me pose la question.
Mais non,
dans
parce que.
Dans notre pays, j'ai l'impression, parfois, le train, on le rate.
Marouche, c'est un président d'honneur, vu son ancienneté, son expérience, ex-joueur de la FLN. Ouais. Mais tout le respect qu'on a pour ces gens-là qui ont apporté beaucoup pour le sport et le football, principalement, mais ils sont dépassés. Il y a un conflit générationnel et nous sommes très très forts dans les YouTube, l'intox et tout ça, mais dans le travail, atteindre des objectifs, on est très très loin parce qu'il nous manque de la méthodologie, du sérieux. Inculquer ces deux notions dans le futur, je pense que c'est le plus important pour nos enfants. Et
c'est le gros chantier.
Ah oui, je pense. Tant qu'on étudie pas.
De demain, hein.
Bien sûr. Ah, merci beaucoup, Mahalaza.
Moi, je vous dis déjà là, en parlant avec vous, ça me fait flipper. Quoi.
Merci, Mahalaza.
Merci, Mohamed. Et Mohamed, j'ai un score pour vous. Le Parado vient de marquer un quatrième but en plus, Macapin.
Ok, je sais
pas
si toi.
Moi, le Jaya, il ne doit pas dormir. Hein.
Ouais, parce que toi, tu es vous, le dis, je te connais. Allez, ça va. Ouais. Voilà, donc franchement, là, maintenant, on en sait un peu plus. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, Ahmed, il y a ce qu'on appelle des nouvelles générations qui doit prendre la place, ce qu'on appelle la nouvelle compétence en rapport avec son temps. Les situations évoluent, les modes de vie évoluent, mais également les textes juridiques évoluent, parce qu'il y a comme tu l'as dit, les contrats aujourd'hui, c'est pas un avocat, c'est une commission de juristes. On ne parle pas d'avocat, on parle de juriste.
C'est ça, spécialisé.
Oui.
Même, vous savez, dans les grands groupes du CAC 40, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des juristes dans les entreprises. Oui. Mais ils rajoutent des cabinets indépendants extérieurs pour avoir un double avis. Et c'est comme ça qu'on avance. En Algérie, on a 4-5 personnes dans un bureau. Ils viennent, c'est des fonctionnaires. Ils regardent, d'autres ils touchent des jetons, des indemnités comme ça, parce que c'est des retraités. Et puis quand on est face à un enjeu comme ça, national, et notre image, elle est sur le plan international, elle est impactée, qu'on le veuille ou pas. Et ça fragmente le peuple. Il est où le service juridique? Pourquoi il n'a pas prévu ce genre de situation? Normalement, si sur le plan juridique, on a tout prévu, aujourd'hui, voilà, on s'embrasse, on dit merci pour ce que vous avez fait, Jamel, chapeau, les échecs arrivent, hein, oui. Il faut toujours, voilà. Maintenant, il faut faire un audit d'échecs, s'il te plaît, tu nous laisses, comme ça, peut-être dans 2-3 ans, tu peux revenir et tu feras mieux. C'est comme ça qu'on doit prévoir les choses. Mais pas dégommer à chaque fois quelqu'un qui arrive. Nasser, un jour, est arrivé quart de finale.
C'est ça.
Avec des grands joueurs. Voilà, aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas appel à Nasser et d'autres dans cette commission pour dire, voilà, allez, comment on choisit, comment on décide, etc. Non, Walid, il n'est pas technicien, il connaît pas, hein, il maîtrise peut-être la logistique, peut-être un peu l'administratif, mais pas le technique. Et les techniques, moi j'aimerais bien savoir ce que Saaden vraiment, en tant qu'ancien fonctionnaire, peut réellement dire son penchant à tel ou tel candidat. Mmh. Moi, les échos que j'ai, c'est qu'ils avaient déjà commencé à discuter avec deux Français dès le premier match. Et Jamel le savait, ça. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, c'est pas éthique.
Je crois pas, moi.
Moi je crois pas. Moi, je crois, je vais pas citer les noms. Riyad Mahrez était informé.
Non, c'est du pipeau, tout ça. Mais ça va dans la logique du système, comme tu l'as décrit depuis tout à l'heure. C'est comme ça. Ils s'arment, eux, toujours après, qu'on avait prévu qu'il y a eu ça. Je pense pas que Walid Saadi, il était peut-être en guerre avec Jamel, mais si Jamel fait les matchs, il gagne ses matchs, il fait 8e, quart de finale, il est encore là. Il bouge pas. Et il peut parler comme il veut, le président. Après, c'est son rôle à lui. Peut-être c'est ces gens-là qui s'amusent devant des grandes personnalités de montrer qu'ils existent. C'est ça aussi, ces gens-là. Ouais. Mais de là dire, tiens, t'as vu, il a parlé pour prendre un contrat chez nous et tout. Non, parce qu'en fin de compte, dans ce qui se passe dans l'Algérie, il y a ces gens-là et il y a d'autres gens. Ouais. Et les autres gens, ils ne veulent pas de ces gens-là. Donc c'est réglé pour moi. C'est réglé.
Bien sûr. Mais
sans plus.
la fédération. Oui. Peu importe les situations, peu importe le contexte, peu importe les générations.
Oui.
Moi, je suis président d'une fédération.
Oui.
Je suis en pleine compétition.
Oui.
C'est tout à fait logique de prendre mes précautions et d'avoir sous le coude un ou deux candidats, s'il m'arrive. Ça, c'est pas ça qu'on reproche à Walid. C'est pas ça.
Non, c'est pas comme ça. Tu vas pas dire que chaque président va avoir son entraîneur qui se barre et je vais préparer le coup et je vais voir du. C'est pas comme ça que ça se passe. Non. Pas au niveau international, pas au niveau des sélections nationales. Tu vois, ça, c'est les années 2000, ça, ce que tu dis. Les gens qui se croisaient dans des. Ils savent qu'ils passent par des parcours et même le président, il va pas, lui, se rabaisser, aller voir un entraîneur, lui dire on était intéressé. S'il a besoin de ça, il passe par ses managers à lui et eux, ils vont contacter ses managers à lui et il peut avoir l'ouverture. Mais de là que lui se mouille devant tout le monde, que lui, le président, a été demandé aux personnes qui viennent. Mais c'est du n'importe quoi.
Le Twitter, comment tu l'expliques, Nasser ?
De qui ?
De Walid.
Lequel ?
Quand il a envoyé. Et oui, comment tu expliques, par exemple, l'interview de Riyad quand il est arrivé à Alger ?
La réponse.
Le journaliste, il a répondu à un journaliste : vous aurez un nouveau sélectionneur. C'est pas moi qui le dis.
Oui,
c'est Riyad qui le dit. Ça veut dire que l'information a été donnée avant. Moi, je dis pas qu'il faut garder Jamel ou qu'il faut.
Et pourquoi il a disparu, Walid Sardi, depuis ce jour-là ? Pourquoi il a disparu aujourd'hui ?
Eh ben, il a disparu parce que s'il dit un mot de plus.
Non, il n'y a pas ça. C'est pas ça. Il est mis de côté. Il est mis de côté, là. Actuellement, il est mis de côté.
Ah, tu parles de Wallis qui a été mis de côté.
Oui,
ah oui, d'accord.
Suite à l'erreur qu'il a fait, parce que quand il l'a mis sur Twitter, il a fait pendant ça, et Jamel aurait mal pris le truc, disant, ah bon, c'est comme ça, ma part, je démissionne pas. Tu vois, l'air de rire.
C'est ça.
Et donc, l'histoire, elle est là. Oui, elle est là.
Un tweet perso au lieu d'un tweet pro.
Bien sûr.
Ouais. C'est ça?
Ouais. Et si t'es président, toi t'es président de la fédération, tu vas balancer, dire, ah yeah, c'est bon, il a donné son accord et tout, j'ai pas signé, j'ai rien signé, c'est un juridique aussi, non
Olivier. Oui.
C'est pas qu'il faut une signature en bas d'une démission, en sachant que le staff avait déjà démissionné, eux ont signé le matin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont démissionnaires,
non, le staff. Non, en droit, ils n'ont pas démissionné, c'est une rupture de contrat à l'amiable, c'est différent.
Oui,
c'est
bien, complètement différent. Très bien, messieurs, super beau débat ce soir.
Mais excuse-moi, juste deux secondes. Moi, je pense que, hypothèse, je pense que Jamel ne souhaite pas démissionner, il souhaite, d'accord, qu'on arrête son contrat. Voilà, c'est pas pour l'argent. Mais c'est pour autre chose. Mais on y reviendra dans une autre émission.
Très bien. Merci beaucoup, Ahmed. Merci à Coach. En tout cas, une très, très belle émission ce soir. Au moins, on vous a donné les clés de cette affaire de la sélection algérienne. Rendez-vous dimanche prochain, 18h-20h, sur l'antenne de BRFM.